With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bonjour à tous et bienvenue à vous pour Midi News. Au programme, c'est le choc, la colère et la sidération en Espagne après l'attaque dans deux églises. Un sacristain a été tué et un prêtre grièvement blessé dans la ville d'Algeciras. Les derniers éléments de l'enquête à suivre, nous serons sur place. Les raffineries, elles débutent ce jeudi une grève de deux jours dans ces raffineries contre la réforme des retraites. Mais pas de panique, ne vous précipitez pas dans les stations-service. Dans les prochaines heures, au prochain jour, il paraît que les stocks des stations de service sont pleins, on va en parler. Le président Zelensky remercie les pays qui vont livrer des chars lourds à l'Ukraine. Et il exige maintenant des avions de chasse. Alors y a-t-il une ligne rouge ou va-t-on vers une escalade sans retour? On en parlera. Puis on a appris il y a quelques instants que la ministre des Affaires étrangères française, Catherine Colonna, est en Ukraine, à Odessa précisément. Voilà pour le programme, mais tout d'abord le journal. Bonjour à vous, cher Michael.
Bonjour Sonia, bonjour à tous. L'Ukraine visée par une nouvelle salve de missiles russes ce matin. Des frappes qui ont fait au moins un mort et provoqué des pannes de courant. Selon Kiev, la Russie a tiré une trentaine de missiles et lancé des dizaines de drones kamikazes au lendemain de la décision des Occidentaux de livrer des chars à l'armée ukrainienne. C'est donc officiel. Après des semaines d'hésitation, les États-Unis et l'Allemagne ont annoncé la livraison de chars lourds à l'Ukraine. Washington a promis 31 Abrams, tandis que le chancelier allemand Olaf Scholz fournira 14 chars Léopard 2, des chars qui pourraient être livrés dès le mois de mars, selon le ministre allemand de la Défense qui répondait à des journalistes. Écoutez.
À la fin du premier trimestre de l'année, c'est ce que nous allons faire.
Combien de mois? 2, 3, 4?
Écoutez, je viens de dire à la fin de mars, je pense.
Est-ce que c'est à temps parce que l'Ukraine s'attend à ce que l'offensive russe soit imminente?
Tout ce que je sais, c'est que c'est le moment.
Les actes antisémites ont baissé en 2022. Selon le CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, 436 actes antisémites ont été recensés en 2022 contre 589 l'année précédente. Des chiffres qui ne reflètent qu'une partie de la réalité pour Yonatan Arfi. Il était l'invité de Romain Desarbres dans la matinale de CNews.
Il y a des gens qui habitent dans des quartiers où être identifié comme juif fait d'eux des cibles. C'est une réalité. Il y a certains moments où certains lieux où c'est difficile. Ça n'est pas le cas général, bien sûr, mais c'est une réalité pour certaines personnes qui en sont victimes. Donc il faut que les Français en aient conscience parce que ça ne dit pas quelque chose simplement de la condition des Juifs dans la société française. Ça dit quelque chose de la France tout court, de la manière dont notre société et sa cohésion sociale s'effritent. Et c'est de ça que l'antisémitisme est aussi un symptôme.
Un jeune homme de 21 ans roué de coups dans le tramway de Montpellier après avoir porté secours à deux femmes transportées à l'hôpital. Il souffre d'un traumatisme crânien. Les faits se sont déroulés en pleine journée à proximité du commissariat de police. Aminata Dem.
Il est 15h vendredi dernier, sur cette ligne de tramway entre les stations Rives-du-Lez et Moularez, quand un groupe de jeunes hommes importune deux femmes. L'un d'entre eux persiste dans la provocation, simule des coups de poing envers l'une des jeunes femmes et finit par coller son front contre le sien. Un jeune homme de 21 ans, alors témoin de la scène, décide de s'interposer. Il est alors roué de coups.
Ce jeune homme s'est interposé de manière pacifique. Il a essayé de faire tomber la pression. La situation s'est retournée contre lui. Et dans un instinct d'autodéfense, il a tenté d'utiliser sa bombe lacrymogène. Il n'a pas eu le temps.
Si ce policier salue cet acte courageux, il déconseille d'agir seul.
Je reconnais tout le courage de ce jeune homme. Mais en même temps, lorsqu'on a affaire à ce genre de situation, c'est vrai que c'est d'une manière collective qu'on doit intervenir avec beaucoup de sang-froid. N'hésitons pas à intervenir en groupe pour faire tomber la pression, pour maîtriser des situations très délicates, surtout pas de partir en conquérant et en justicier.
Victime d'un traumatisme crânien, le jeune homme a aussitôt été transporté vers l'hôpital par les secours. À l'heure actuelle, seulement deux agresseurs ont pu être interpellés. Âgés de 15 et 16 ans, ils ont reconnu les faits et devront comparaître devant la justice des mineurs.
Et puis le franco-syrien Riyad Satouf, couronné au festival d'Angoulême, l'auteur de l'Arabe du futur, a remporté la plus haute récompense du monde de la bande dessinée hier. Il a rendu hommage à sa grand-mère maternelle, la première à avoir cru en son talent, dit-il. Le festival de la BD qui ouvre ses portes au public aujourd'hui. Voilà pour l'actualité, c'est la fin de ce journal. Place au débat de Midi News à présent avec Sonia Mabrouk.
Et surtout nos invités, merci à vous Mickaël et merci à Jérôme Jiménez d'être avec nous ce midi. Bonjour, porte-parole IDF UNSA Police à vos côtés. Caroline Pilastre nous accompagne. Bonjour à bonjour, vous Caroline. Bonjour. Eric de Ritmaten nous accompagne. On va évidemment parler de ces blocages, Eric, et ces raffineries. Donc dès aujourd'hui, hein, pour deux jours, 48 heures de blocage dans les raffineries. Maître Pierre Gentil est également bonjour. Présent. Bonjour à vous. On va se rendre tout de suite en Espagne. C'est le choc et la sidération après l'attaque dans deux églises. Un sacristain a été tué et un prêtre est grièvement blessé. Tout ça s'est passé dans la ville d'Algeciras. L'assaillant, interpellé par la police, est un Marocain qui sera en situation irrégulière. Nous sommes avec notre correspondant en Espagne, Frédéric Traini. Frédéric, quels sont les derniers éléments dont nous disposons là avec l'enquête qui est en cours ?
Alors écoutez, d'après la description de l'attaque, un homme de 25 ans est donc arrivé seul dans une première église où il a poignardé au cou le prêtre qui a été blessé, puis s'est rendu dans une seconde église où il a tué à coups de machette le sacristain, un bénévole laïque qui s'était interposé. Et selon les premiers éléments de l'enquête, en fait, il s'agirait d'un ressortissant marocain de 25 ans. Il était dans les radars de la police hein, parce qu'il était entré illégalement sur le sol espagnol et faisait l'objet d'un avis d'expulsion. Mais même si l'assaillant a lancé des slogans religieux musulmans et profané des objets de culte, eh bien, il semblerait, selon la police, qu'il ne s'était pas radicalisé, ce qui laisse supposer qu'il ne s'agirait pas non pas d'un loup solitaire entraîné, radicalisé et envoyé par une cellule terroriste pour perpétrer cet attentat, mais plutôt d'un individu qui a agi seul en totale improvisation. La police va toutefois traiter et mener l'enquête comme s'il s'agissait effectivement d'une attaque terroriste. Et l'émotion, évidemment, en Espagne est vive. Le maire d'Algeciras vient de décréter un deuil d'une journée et invite les habitants à venir se recueillir sur les lieux de l'attaque.
Oui, vous l'avez précisé, hein, Frédéric, c'est une enquête qui est ouverte pour des faits supposés de terrorisme.
Oui, tout à fait, des faits de terrorisme avec des procédures qui vont donc découler de ce procédé d'enquête de la part de la police. Mais d'après les premiers éléments communiqués par les services de sécurité, l'homme semble avoir agi seul, en totale improvisation, comme je vous le disais, et sans faire partie visiblement d'aucun réseau islamiste connu, en tout cas pour l'instant, au niveau où en est l'enquête, c'est ce qu'on peut dire aujourd'hui.
Merci beaucoup. Merci à vous, Frédéric Traini, pour ces informations, notre correspondant CNews en Espagne. Jérôme Jiménez, ce sont des attaques qui se multiplient là dans les derniers temps. On a vu récemment en Allemagne, il y a ce qui vient de se passer. Notre correspondant parle d'une action solitaire, c'est-à-dire menée par un seul individu. Néanmoins, c'est quand même un bilan qui est très lourd. C'est aussi, j'allais dire, l'une l'un des pires scénarios aussi, parce que c'est très difficile évidemment d'appréhender ce genre d'individus. Certains les avaient appelés avant les loups solitaires, une expression qui a été vite abandonnée d'ailleurs.
Ces actes isolés, oui, sont très difficiles pour travailler dans de bonnes conditions et surtout intervenir au meilleur moment, c'est très difficile. Moi, ce que je vais vous dire aussi, c'est qu'en France, on compte un peu plus de 52 000 lieux de culte, que ce soit les églises, mosquées, synagogues, temples ou autres. Et systématiquement, en période de fête, il y a une vigilance particulière qui est faite. Vous avez des effectifs de police qui sont présents devant tous ces lieux de culte, que ce soit en patrouille plus ou moins fixe devant ou dynamique, parce que le mot d'ordre, c'est de la visibilité et également de la dissuasion. La dissuasion par notre présence sur la voie publique et aux abords de tous ces lieux de culte. Donc, on fait beaucoup de choses de la police nationale, vous le savez très bien, mais on le fait, ce sont des missions qu'on assume régulièrement et vous le voyez régulièrement sur pour toutes ces communautés en période de fête, nous sommes présents. Mais il faut juste aussi avoir un petit peu la notion et le rapport au nombre de lieux que cela représente, 52 000. 52 000. On ne peut pas être partout.
Évidemment. Je voudrais qu'on voit la réaction du ministre de l'Intérieur français, Gérald Darmanin, sur les réseaux sociaux. Voici ce qu'il a dit. Solidarité, évidemment, c'est naturel avec mon homologue Fernando Grande Marlaska, nos amis espagnols et les fidèles catholiques après les attaques ignobles survenues dans le sud de l'Espagne. Évidemment, c'est à la communauté catholique aussi que l'on pense, mais plus largement parce que c'est un pays véritablement, là il y a une marche blanche comme on dit qui a été organisée, il y a toujours l'émotion et aussi, j'ai entendu beaucoup de témoignages sur la télévision espagnole, de colère. Évidemment, on ne peut pas contrôler tous ces lieux-là, mais il y a une forme, non pas de lassitude, mais d'exaspération profonde, Pierre Gentier, parce qu'à chaque fois, malheureusement, ce sont les mêmes scénarios qui se répètent.
C'est-à-dire qu'il y a deux sujets. Il y a une exaspération aussi, je pense, du fait que cette personne faisait l'objet d'un avis d'expulsion. Donc ça pose, et en fait, ça pose une double question. C'est un, pourquoi cette expulsion n'a pas eu lieu? Et deuxième, donc ça c'est la solution en aval. Mais il y a aussi en amont le flux migratoire, parce que l'Espagne a aussi, que l'Europe tout entière
surtout cette
a
ville,
des problèmes
là-dessus. Porte d'entrée, on est à la pointe
encore
de l'Espagne.
Encore plus ici, tout à fait, tout à fait. Donc il y a une question de maîtrise migratoire, on le voit et je le reconnais volontiers, qui ne touche pas que la France, qui touche aussi l'Espagne, qui touche bien évidemment l'Allemagne, qui touche l'Italie, la Suède, etc. Donc évidemment, voilà, tout ça a des conséquences. Alors pas forcément des conséquences mécaniques. Hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ça ne veut pas dire que toute personne qui vient d'un pays étranger va venir égorger un prêtre. C'est pas ce que je dis. Mais ce que je dis, c'est qu'il y a une telle masse, qu'il y a un tel flux, et que Frontex ne fait pas les moyens pour contrôler comme il le faut tous les individus qui viennent, eh bien qu'on peut en arriver à ce type d'extrémité. Alors à chaque fois, je rebondis sur l'expression que vous utilisiez tout à l'heure quand vous parliez de loup solitaire.
Alors justement, je dis que je ne l'utilisais pas, mais ce sont des attaques
pour le prendre à
individuelles.
Tout à fait.
Semble-t-il,
c'est-à-dire que c'est ce qu'on disait au départ.
Mais
comme les loups se sont multipliés, vous savez, quand les loups se multiplient, ça devient une meute. Et du coup, on se pose la question, et c'est l'objet d'ailleurs de l'enquête. Je ne m'avance pas, mais c'est l'objet de l'enquête de savoir si ces gens-là sont reliés à une organisation ou, en tout le moins, et c'est le point le plus important, quelle est la motivation? Parce que quand même, cette personne s'est rendue dans une première église, a égorgé un prêtre, et ensuite est allée dans un deuxième lieu de culte catholique, dans une deuxième église, et s'en est pris à un sacrifice.
Et apparemment, il s'en est pris aussi à ses colocataires. Hein. Ça, c'était aussi le début de ce processus mortifère. On va écouter à ce sujet l'expert Claude Moniquet sur le mode opératoire. Est-ce que ces attaques, justement, dites individuelles, en tout cas commises par un seul individu, sans, semble-t-il encore, je préfère être prudente à l'heure actuelle avec l'enquête, pas de lien avec d'organisation, est-ce qu'elles se multiplient ces derniers temps? Écoutons-le.
La manière dont il s'y est prise est très particulière. Il a commencé par venir dans la première église vers 18h20 pour appeler à la conversion les fidèles catholiques qui s'y trouvaient. Il est revenu 45 minutes plus tard et il a commencé ses actes criminels. Dans la deuxième église, il a commencé par s'attaquer à l'autel, à un crucifix qu'il achetait par terre, à des images pieuses, avant de poursuivre et de tuer le sacristain qui voulait le maîtriser. Donc on est en face de quelqu'un qui, par ailleurs, a aussi attaqué dans la même soirée des cohabitants, si on peut dire, en tout cas des colocataires, si on peut dire, du squat dans lequel il vivait, squat très proche de la première église. Donc on est chez quelqu'un qui est clairement mu par une idéologie salafiste djihadiste, mais peut-être et probablement aussi quelqu'un qui a de gros problèmes mentaux.
C'est toujours un petit peu le même constat. Enfin, ce qui est incroyable, c'est toujours cette dichotomie, c'est-à-dire oui, attaque, probablement, je veux dire, tous les éléments, apparemment, c'est un faisceau d'indices pour qualifier cela d'une attaque terroriste, mais il y a aussi le déséquilibre mental qui est à chaque fois rappelé. Mais est-ce qu'il n'est pas inhérent à ce genre de crime et d'attentat?
C'est toute la difficulté, Sonia. Moi, je préfère analyser, eu égard à ce que dit M. Moniquet, par rapport à l'idéologie qui est sous-tendue, voire même affirmée clairement, par ce type d'individu. Ce qui a tué, par exemple, en France, à Saint-Étienne-du-Rouvray, le père Hamel, c'est pas le déséquilibre, c'est pas la psychose, c'est pas Freud là, qu'il faut invoquer. C'est le conflit civilisationnel à l'aune dans l'Europe, dans toute l'Europe, entre un certain nombre de personnes. Alors, est-ce que c'est des loups solitaires? Est-ce que c'est une meute de loups solitaires? Est-ce que c'est une vague importante? Je ne sais pas. Mais en tout cas, d'un certain nombre d'individus salafisés pour lesquels l'Europe, c'est la chrétienté, et la chrétienté, c'est l'Europe. C'est-à-dire qu'eux ne font pas la dichotomie que nous faisons, nous occidentaux, en réfléchissant selon la République, l'athéisme, les agnostiques, etc. Pour eux, nous sommes un peuple chrétien, plus ou moins homogène, et donc sans
et
prendre aux églises.
Et que font quand même une grande
symbole.
Partie des musulmans aussi, hein, cette dichotomie.
Absolument, absolument. Non, mais ça c'est très juste. Mais si vous voulez, il y a chez eux une, comment dirais-je, un abord civilisationnel de la question. C'est la raison pour laquelle cet abord civilisationnel se traduit par ces actes absolument abjects, mais qui frappent des églises comme le symbole de quelque chose. C'est en cela que je ne pense pas, si vous voulez, qu'il y ait... Je ne vois pas derrière ça le spectre du déséquilibre. Je vois au contraire quelque chose d'assez abouti, d'assez clair au plan idéologique, qui se traduit dans des actes horribles. Et effectivement, je rejoins l'analyse de Pierre sur la question des frontières. C'est là l'alpha et l'oméga de ce problème. Et on voit bien que ça touche toute l'Europe. Et quand vous allez dire ça à la Commission européenne et Mme von der Leyen, elle vous dit que ce n'est pas la priorité, les frontières. Au contraire, il faut les ouvrir. Le directeur de Frontex, d'ailleurs, a été poussé à la démission parce qu'il dénonçait, il n'y a pas très longtemps, il y avait un très bon papier dans le Figaro magazine où le directeur de Frontex expliquait qu'on lui donnait une petite cuillère en bois pour vider la Méditerranée. Passez-moi l'expression. Ah oui. La situation, elle est dramatique sur le plan des frontières. Et tant qu'on ne résoudra pas le problème des frontières, eh bien, nous verrons ce type d'acte se reproduire en Espagne, en Italie, en France, en Allemagne, en Suède, etc. Oui. etc.
Même si une fermeture de tout n'est pas envisageable, et ce serait facile si c'était la panacée, mais déjà... Faire quelque chose, ce serait un bon début. Caroline Pilas, je vous fais réagir. Je voudrais qu'on voit ce sujet qui détaille aussi l'éventuel profil en fonction des éléments dont nous disposons. Il est préparé par Alexis Vallée.
L'église pleure dans le sud de l'Espagne. Cet homme a été arrêté par les forces de l'ordre, accusé d'avoir tué hier soir un sacristain et grièvement blessé un prêtre dans une attaque à la machette. Vers 19h, dans la ville d'Algeciras, située à la pointe sud de l'Espagne, l'assaillant entre dans l'église de Saint-Isidore d'Algeciras et attaque le prêtre au cou, le blessant grièvement. Il se rend ensuite dans une seconde église, à quelques minutes à pied de la précédente, à Notre-Dame de Palme. Il s'en prend cette fois au sacristain, qui décède sur place. Il s'appelait Diego Valencia. Le parquet espagnol a annoncé qu'une enquête a été ouverte pour des faits présumés de terrorisme.
Des faits présumés de terrorisme, il est vrai qu'il y a eu cette attaque dont on a peu parlé, en tout cas a été peu évoquée en Allemagne aussi, une attaque au couteau. Il y a eu ce qui s'est passé évidemment à la gare du Nord avec une enquête qui est toujours en cours. C'est difficile de parler pendant une enquête, mais enfin, quand même, il y a un mode opératoire. Exactement. Il y a des éléments qui paraissent presque...
Ça se réitère malheureusement.
Gravé malheureusement dans
le C'est une exaspération, une résignation, c'est un acte criminel. Je vous rejoins, c'est une idéologie mortifère qu'a commis cet individu, hein, qui pour moi quand même a commis un acte terroriste. On verra par la suite ce qu'il en est. Mais on peut très bien avoir une idéologie, un terroriste, et être déséquilibré. L'un n'empêche pas l'autre. Simplement, il a ciblé des églises. Il savait très bien où il allait. Il n'a pas ciblé une mosquée, par exemple, pour prendre quelque chose en rapport avec sa religion. Il est rentré dans cette église et a quand même essayé de convertir les fidèles. Donc, pardonnez-moi, quand on parle d'un fou, moi je veux bien, mais c'est un fou quand même qui sait très bien ce qu'il fait et où aller. Plus globalement, je serai pour fermer les mosquées salafistes. À partir du moment où on dénonce des prêches, où on signale...
C'est ce que tous les gouvernements affirment faire, en tous les cas, avec une main distille de faire.
Il faut sanctionner pour moi plus fermement les prêches haineux qui sont contre nos valeurs, contre nos mœurs. Et il y en a régulièrement. Je trouve qu'on fait quand même aussi preuve de laxisme sur cette question-là. Je globalise, puisque je vous donne raison concernant votre analyse, mais le problème est bien là, c'est une idéologie, malgré
tout. Donc, frontières, les prêches...
Oui. Elle vient, alors, je suis d'accord avec ce que vous dites, évidemment, mais là, en l'occurrence, c'est une personne qui vient de l'étranger. Donc, si on ferme les mosquées... C'est très bien, je suis d'accord avec vous, fermer les mosquées salafistes sur place, en Europe, en France, en Espagne, d'accord. Mais là, en l'occurrence, c'est une personne qui vient de l'étranger. Donc ça pose aussi la question de la régulation du flux migratoire, parce que c'est quand même aussi ça le sujet.
C'est un problème globalisé.
Tout à fait, mais je fais aussi cette précision. Je voudrais dire quelque chose.
Vous avez déjà fait, mais allez-y.
Je vais rajouter quelque chose.
Je vous en prie.
Vous voyez, là on parle de cette affaire dramatique. Je suis prêt à prendre les paris que dans deux jours, un jour, on n'en parlera plus, il y a cinq ans, cette affaire-là aurait fait une semaine d'information. Je pense que nous nous sommes en train de nous habituer aux attaques au couteau.
On oublie qu'il y a un risque terroriste, on l'a vécu tellement puissamment.
Il y a une résignation, il y a une passivité. Et je ne parle pas que des médias, je parle aussi des Français qui sont habitués. Il y a 5-6 ans, des attaques au couteau. Vous voyez l'attaque au couteau à Gare du Nord, ou même l'attaque qui a eu lieu en Allemagne, dont vous avez parlé, dont j'ai à peine entendu parler. Vous me l'apprenez, je crois, peut-être que j'ai entendu parler vite fait. Il y a 5-6 ans, je vous le dis, on en aurait parlé beaucoup plus. Beaucoup plus. Aujourd'hui, tout ça, c'est presque dans la rubrique faits divers. C'est dramatique.
Vous êtes d'accord, Jérôme Jiménez ? On s'habitue, malheureusement, on s'habitue, mais de manière tragique, hein, assez faits qui ne sont évidemment pas des faits divers aujourd'hui.
Oui, je crois que c'est bien malheureux. C'est le constat d'une société qui est de plus en plus violente. Et bien évidemment, à chaque fois, on se rend compte que c'est des personnes qui, à la marge, vont commettre ces violences. Et au couteau, je vous rappelle qu'hier, une étudiante, vous avez traité ce sujet sur CNews, a été agressée dans l'enceinte de l'université au couteau. Après, on verra ce qu'il en est de cette enquête. Apparemment, c'est indifférent dans la vie privée. Mais malgré tout, le mode opératoire est là. Vous avez des personnes de nationalité nord-africaine qui sont ici aussi et qui ont été attaquées dans l'université. Alors, c'est très curieux. J'ai eu plusieurs éléments sur cette affaire. Je vais rester très prudent, mais en tous les cas, je rebondis exactement sur ce que vous dites. On s'habitue.
Oui.
Et l'info, elle est là. On a des attaques au couteau tous les jours. Et après, avec des mobiles ou des motifs qui sont toujours différents. Mais en tous les cas, oui,
c'est grave.
Ça devient très, très grave.
S'habituer, oui, c'est une forme de résignation. Je vous parlais de l'Allemagne. C'était il y a même quelques heures.
On en a
avant
à peine
hier.
Parlé.
C'était une attaque au couteau dans un train régional. Donc, attaque au couteau dans un train régional, Gare du Nord, ce dont vous avez parlé avec cette étudiante. Et ceci, d'accord. Alors, résignation, j'allais dire, dans le débat politique, public, etc. Mais pas, évidemment, ni de nos renseignements, ni de nos forces de l'ordre, ni de la police, ni rien du tout. C'est peut-être ça le plus
ils
important.
Sont ils sont dépassés. Pas, on leur donne les moyens d'agir. Ils sont quand même aussi dépassés, il faut quand même le dire. C'est-à-dire qu'en fait, le vrai sujet, c'est la multiplication. Et il y a une telle multiplication. Alors que peut-être il y a un effet résignation. Bien sûr, c'est un sujet politique, mais c'est qu'on est complètement submergé. Et donc, du coup, la tentation, elle est de dire, mais il y en a tellement, c'est plus exceptionnel aujourd'hui, qu'on est presque en train de ranger ça dans la catégorie faits divers. Ce qui s'est passé, effectivement, je crois que c'était dans le centre de Paris hier, cette attaque au couteau. Je vous le dis, il y a 5 ans, on en aurait parlé pendant une semaine.
Mais, attendez, vous mettez ça sur le compte d'une plus grande... alors c'est le mot qui fait débat, je sais que vous ne le reprenez pas à votre compte, d'ensauvagement, mais d'une plus grande violence, alors ultra-violence, hyper-violence, appelez-la comme vous voulez, de notre société, ou alors le fait de ne plus en parler, de trouver ça normal. Enfin normal, attention.
Je pense que c'est assez complexe, je vais vous donner
on
un
dénonce,
exemple.
On le dénonce, mais ça passe un peu sous les radars.
Je vais vous donner un exemple qu'on m'avait rapporté et que j'ai connu. Rappelez-vous, en 2012, au printemps arabe, on avait une des difficultés, au sortir du printemps arabe, on avait de plus en plus de phénomènes de violence avec armes. On avait réussi à éradiquer le phénomène parce que aussi, quand on interpellait les gens, il y avait des vraies suites judiciaires. Alors, je ne dis pas que la prison, c'est la réponse à tout. Oui. En tous les cas, on n'était peut-être pas débordé comme on l'est aujourd'hui. Et on avait réussi, notamment dans les transports en Ile-de-France, à retirer ce problème parce qu'on avait de plus en plus d'atteintes avec des armes, notamment des armes blanches. Donc, c'est aussi un petit peu tout ça. Il faut avoir cette notion et regarder un petit peu...
Vous avez raison. Je pense au poids des mots. Quand on dit arme blanche, c'est un couteau.
Oui.
Là, on parle d'une machette.
Oui.
Enfin, je veux dire, parfois, il faut nommer les choses pour voir aussi la violence de ce dont on parle.
Et puis la prolifération, moi, j'avais été extrêmement choqué. Il y avait eu des combats à la machette à Montpellier, il n'y a pas très longtemps, entre gangs rivaux, qui étaient des communautés, des diasporas étrangères africaines qui se battaient entre elles. Alors là, vous vous dites, attendez, on reprend en 2 minutes un peu le fil de l'histoire, on refait le fil de l'histoire des dernières décennies, on se dit, on est en 2022-2023, on est en France, et voilà ce qui se passe sous les fenêtres des Français. Qu'est-ce qui a bien pu se produire, vous avez 2 heures, en plusieurs décennies pour en arriver là?
Mais là, vous me faites un lien direct entre culture,
entre machette,
et
la machette, a priori, enfin, en France, la machette, on s'en sert peut-être pour couper les forêts, les morceaux de bois, mais enfin, on s'en sert pas pour se battre. Évidemment que c'est une signature, comme les attaques au couteau sont la signature d'attaques low cost, pourrait-on dire, ou en tout cas de la rue.
Ça a été, pendant des années revendiqué comme tel. Là, l'enquête ouvre véritablement, c'est pour des faits supposés de terrorisme.
Non, mais là, en le cas d'espèce, je ne sais pas. Mais en tout cas, sur l'inflation des attaques au couteau ou à la machette, évidemment, il y a une signature derrière. Et il serait hypocrite de ne pas le voir.
Oui, mais si c'est
là, si vous faites un lien entre culture globale.
Non, pas culture globale.
Vous laisse la. Comment dire.
Non, bien sûr, vous savez. Il n'y a pas de culture dans laquelle la violence au coin de la rue est quelque chose d'encouragé. Par contre, il y a des espaces dans le monde dans lesquels il y a plus de violence au coin de la rue que d'autres. Il n'y a pas un seul État, nation, sur les 190 et quelques contre le monde, qui dit « Allez-y, entretuez-vous dans les rues ». Mais le fait est que vous avez plus le risque de prendre un coup de couteau dans une favela à Rio ou dans un bidonville à Lagos, normalement, théoriquement, que dans les rues de Paris. Et pour autant, eh bien, ça enfle aussi dans les rues de Paris. D'où, effectivement, l'importation d'une hyperviolence que nous ne connaissions pas jadis en France.
Caroline. Il faut quand même revenir sur cet acte. Si c'est avéré que c'est un acte terroriste, comme nous sommes nombreux à le penser, il y a quand même, en dehors de l'idéologie mortifère, un terrorisme low cost.
Oui.
C'est ce que disent tous les spécialistes, et on le voit de plus en plus.
Parce que c'est low cost, c'est terrible. Elle fait autant de vies. Non, mais vous avez raison. Sûr.
Non, mais c'est abominable. Attendez, moi, je ne m'habitue
certains
jamais à ça.
Certains disent artisanal.
Ça fait
des années qu'on en parle.
Oui. Mais c'est parce que c'est plus simple, certainement, certains, de prendre un couteau que de fabriquer une arme et d'avoir tout le team.
Vous avez raison, quand c'était ma première question à Jérôme Jiménez, que ce soit pour les forces de l'ordre, que ce soit pour le renseignement, etc., là, il n'y a pas d'organisation, il n'y a même peut-être pas besoin d'être lié, comme semble-t-il, cet individu à une organisation terroriste. Il faut être mu par sa haine et une volonté de tout simplement de détruire l'autre, de faire du mal à sa culture, etc. Alors, d'où la complexité d'appréhender ça.
Je voulais juste revenir aussi sur un élément. Il y a 20 ans, lorsqu'on partait en perquisition, c'était quand même plutôt rare de trouver des armes. Aujourd'hui, c'est systématique. Ouais. Voilà. Il n'y a pas une perquisition sans découverte d'armes. Ou d'armes à feu, ou d'armes blanches, ou d'armes... Voilà, c'est systématique. Donc ça, c'est un signe fort.
Bien. On continuera à suivre les éléments de cette enquête. On va marquer une pause et revenir au contexte social avec vous, cher Éric de Rithmaten. En France, avec ces 48 heures de grève dans les raffineries, alors radicalité ou pas, on verra, c'est très intéressant. Je vais vous soumettre un sondage CNews. Des Français, que pensent-ils de ces blocages, à votre avis, alors qu'ils sont contre la réforme? Intéressant, à tout de suite. Dans Midi News, on vous posera cette question tout à l'heure après les chars, bientôt les avions. C'est ce que réclame déjà Zelensky. Alors, y a-t-il une ligne rouge ou alors va-t-on vers une escalade sans retour, sans limite? On en parlera. Mais tout d'abord, les titres, c'est News Info, Audrey Berthaud.
137 000 demandes d'asile enregistrées en France l'année dernière. Cela correspond à un bond de 31%. Plus de 34 000 sans-papiers ont été régularisés en 2022, une hausse de 8%. Concernant les expulsions d'étrangers, elles sont également en hausse de 15% en 2022. Ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur qui viennent d'être annoncés. Une visite surprise de la ministre française des Affaires étrangères. Elle vient d'arriver à Odessa, dans le sud-ouest de l'Ukraine. Sur son compte Twitter, vous le voyez, Catherine Colonna affiche le soutien de Paris au moment où la ville est touchée par des frappes et après l'envoi de chars par l'Allemagne. Et puis les catastrophes naturelles en France en 2022, elles devraient coûter 10 milliards d'euros selon France Assureur. En cause, l'intensification des phénomènes climatiques extrêmes et une augmentation de leur fréquence. En effet, les orages de grêle, les tempêtes, les inondations et la sécheresse ont fortement augmenté l'année dernière.
Les raffineries débutent ce jeudi une grève de 2 jours contre la réforme des retraites, mais pas de panique, ne vous précipitez pas dans les stations de service dans les prochaines heures ou dans les prochains jours. En tous les cas, c'est ce que nous dit le président national des stations de service. Tout va bien, écoutons-le pour le moment.
Les dépôts sont déjà pleins, puisque toutes les mesures ont été prises. Les stations de service ont des stocks, j'allais dire, plus élevés que d'habitude. Donc, sur 2 jours, il n'y a aucune inquiétude à avoir sur l'approvisionnement en essence. Heureusement, les stocks sont dimensionnés en stations de service pour plusieurs jours. Certaines sont livrées tous les jours, mais avec une capacité très importante. Donc, en fonction de ce qui est annoncé par la CGT, il n'y a pas de danger à avoir sur l'approvisionnement en station. Évidemment, il faut éviter les pleins de précaution, puisque c'est plutôt ça, on l'a vu il y a une semaine, qui déstabilise les stocks des stations-service.
Vous avez remarqué quelque chose, quand quelqu'un dit qu'il faut éviter les pleins de précaution, qu'est-ce qu'on fait tous?
Précaution.
Sans le dire, ne le faites pas.
C'est comme quand Olivier Véran dit ne paniquez pas.
Tu sais que là, tu peux t'angoisser. Hein.
Oh.
Eric, il y a des raisons de s'inquiéter là. Bon, c'est 48 heures, mais on ne sait pas ce qui va se passer.
J'ai eu Total, qui est pratiquement le principal raffineur. Bon, il n'y a pas de risque si c'est 24 ou 48 heures, c'est vrai. Après, au-delà, si en plus vous avez les dockers, si vous avez les transporteurs qui font grève, là, c'est sûr qu'il y aura des problèmes. Maintenant, alors, précision, les raffineries, elles tournent, parce que ça ne s'arrête pas comme ça, une raffinerie. Là, quand on dit grève dans les raffineries, c'est en fait les expéditions qui sont bloquées. C'est-à-dire, en fait, les grévistes sont devant les portes, et puis les camions ne peuvent pas sortir. C'est ça,
ah bon,
c'est ça. Ah oui, c'est ça. Mais sinon, la raffinerie continue de tourner. On ne peut pas arrêter une raffinerie comme ça.
On est d'accord. Mais qu'est-ce qui est illégal? Alors, parce qu'à un moment, je crois qu'il y a quelque chose qui est illégal. On ne peut pas bloquer totalement fonctionnement d'une raffinerie.
Complètement, oui, bien sûr. Bah, donc, c'est pour ça, d'ailleurs. Alors, les CGT dit 100% de grévistes dans certaines raffineries, d'autres c'est 50%, ça dépend des endroits. Je crois que le seul endroit c'est Fézin où ça fonctionne à peu près. Mais voilà, si vous voulez, c'est la menace sur le long terme, c'est ça qui peut vraiment être inquiétant. Maintenant, effectivement, vous avez raison de le dire, pas de plein de précautions. Les stocks sont quand même encore suffisants.
Je ne peux pas le dire parce que je ne peux pas dire faites ce que je fais pas, ce que je fais, mais faites pas ce que je fais. Bref, vous avez compris.
Il y a un autre souci en dehors de cette grève, parce que c'est pour deux jours et puis après il va y avoir le 31. En fait, le vrai souci aujourd'hui, il est plutôt au niveau de l'approvisionnement de gazole. On n'en parle jamais. Mais vous savez, moi j'ai découvert ça d'ailleurs. Hein. Le gazole en France, la moitié du gazole en France, le diesel donc, il y a encore beaucoup de voitures diesel, hein, venait de Russie.
Vous vous souvenez qu'on nous a encouragé à en acheter?
Voilà, et venait de Russie. Et malgré les embargos, alors la France avait commencé à lâcher l'importation de gazole russe, mais d'autres pays en apportent énormément, enfin apportaient de Russie. Et donc ça va changer, puisque le 5 février, ça sera un embargo 100%. Donc il n'y aura plus du tout de gazole qui viendra de Russie.
Il y a ce que vous dites, il y a la question des prochaines heures et des prochains jours. En fait, c'est quelle teinte va prendre cette mobilisation? Est-ce qu'on va aller vers une radicalité? Alors Jérôme Jiménez, on aurait bien avoir une boule de cristal, comme le gouvernement, pour savoir. Surtout, vous faites partie aussi des manifestants. Le 31, vous serez dans la rue également.
Oui.
Et en même temps, il y a toujours cette inquiétude de savoir est-ce qu'il va y avoir des actions ponctuelles. Certains appellent à la désobéissance civile, et sans violence, disent-ils. D'autres à des blocages qui peuvent être de plus en plus rudes. Comment vous le sentez, vous, le climat, là, en ce moment?
Je pense qu'il faut, là déjà, je crois qu'on est vraiment loin. Vous savez, c'est des ajustements, à chaque fois je vous le dis, hein, c'est quand même des ajustements de dernière minute qui nous permettent d'avoir la vraie température, si je puis dire. Et là, il y a quand même encore quelques jours, hein, avant mardi prochain. Pour répondre à votre question, oui, bien évidemment, nous serons présents parce que, comme tout salarié du public ou du privé, on subit l'accélération de cette loi et on veut défendre les retraites, hein, pas nos retraites, mais les retraites en règle générale. Donc notre présence est importante. Et en plus, c'est aussi intéressant parce que moi, j'étais présent jeudi dernier et ça permet d'échanger avec beaucoup de personnes. Il y a une proximité qui se crée et ça peut être aussi parfois constructif. Et en plus de ça, je vous précise également que les policiers mettent à disposition pour les services d'ordre des confédérations syndicales notre savoir-faire et c'est aussi parfois la clé de la réussite d'une manifestation.
Ah oui, alors quand ça se passe comme ça, c'est formidable. Mais là, on va quand même vers un climat qui se tend. Le patron de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, dit craindre une grève dure et longue désormais. Il voit loin, lui. On aurait pu le prévoir avant.
Il voit loin. Vous avez des préavis qui ont été déposés pour des grèves répétitives à partir du 15 février. Alors comme les vacances arrivent juste derrière, et puis il faut pas croire que les vacances.
Ça va être perturbé pendant les vacances.
Ça sera perturbé. Ah, ça c'est pratiquement sûr.
C'est plus la peine de dire peut-être. C'est sûr. Maintenant on le sait. Il y aura forcément deux journées, je crois, Eric.
Oui, mais si c'est reconduit. Alors souvent on se dit oui, mais comment ça se fait encore des grèves? Vous savez que les syndicats ont des cagnottes parce que comme c'est quand même des grévistes qui théoriquement ne doivent pas être payés.
Il paraît qu'elles sont bien pleines. Hein.
C'est ça. Et les cagnottes sont pleines. Ouais. Les cagnottes sont pleines. CFDT, CGT, je donnais les chiffres hier ici. Hein.
Donc ils ont de
ça
quoi tenir.
Par centaines de millions d'euros. Et donc ils ont de quoi tenir. Et puis ils s'arrangent si vous voulez. Si vous êtes en grève par exemple le matin, vous travaillez l'après-midi, vous voyez, c'est aussi ce qu'on appelle des grèves répétitives.
Bien sûr, il y a un roulement. Alors moi ce qui m'intéresse, c'est est-ce que, alors là, c'est les raffineries qui seront en grève, il y aura des blocages, il y a des appels à la désobéissance civile. Est-ce que tous les moyens sont permis pour, sauf la violence, on va dire. Mais appel à la désobéissance civile. Où est la nuance, Paul Melun ?
Moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment... Déjà, bon, que ce soit la grève ou la manifestation, ça ne pose pas de sujet, effectivement. Enfin, au plan juridique, il n'y a pas de débat là-dessus. Maintenant, je pense que ce qui est très intéressant, c'était sur votre question de tout à l'heure, Sonia, sur la radicalité. Effectivement, le mouvement, il aura tout loisir de se radicaliser, si tant est, ou en tout cas d'avoir de plus en plus de radicalité dans les modes opératoires, dans les semaines à venir, tant que le gouvernement sera mutique et tant qu'il poussera quelque part, par son absence de négociation, à la radicalité. Et je pense même, vous allez peut-être dire, Paul Melun est un autre
complotiste. Il a déjà tout cédé, vous n'allez pas être d'accord, mais enfin déjà...
Oui,
non,
il n'a pas cédé, rien du tout. Il y a probablement beaucoup de choses que le gouvernement a prévu de céder.
Il retire sa réforme, il pointe la ligne.
Non, mais si vous voulez, il y a un truc très facile qui va se mettre en place. De deux choses l'une. Un, le gouvernement va permettre à ce mouvement de se radicaliser parce qu'il en a intérêt. Je ne dis pas se radicaliser par la violence, mais en tout cas, le gouvernement a intérêt à ce qu'on dise le pays est bloqué, les grévistes sont tout de même casse-pieds, ils nous empêchent ceci, ils nous empêchent cela, pour que le gouvernement puisse dire appel à la responsabilité, et puis après, vous allez avoir un Véran ou un autre, de toute façon, ils sont tous un peu similaires, qui va venir à la télévision et qui va s'en venir nous dire bah, écoutez, Français, le blocage est terrible, les Français sont des irresponsables, surtout les syndicalistes, donc la réforme passera.
Vous seriez au gouvernement, vous auriez fait la même chose.
Ah ben, si je serais au gouvernement, j'aurais pas fait cette réforme. Donc, de toute façon, je serais bien tranquille.
Vous auriez profité des blocages pour dire c'est la faute de l'autre.
En tout cas, c'est ce que font tous les gouvernements depuis plusieurs décennies. Donc, ils vont le faire. Et deuxième modus operandi qui va être adopté, c'est les petites concessions lâchées. Probablement que dans le bureau de M. Dussopt, dans le tiroir, il y a quelques concessions qui sont triées par ordre alphabétique et qui vont sortir, qui dégraineront pour calmer les syndicats.
Est-ce que la désobéissance civile, ça tombe dans le domaine d'une forme d'illégalité ? Parce que désobéir, c'est contourner les règles et la loi, jusqu'à nouvel ordre. Ou est-ce que vous estimez que tous les moyens sont permis pour lutter contre cette
réforme ? Franchement, il faudrait citer des exemples de désobéissance civile.
Vous êtes marrant, parce que quand c'est à Sainte-Soline et les militants écologistes, désobéissance civile, ah, mais c'est pas bien. Mais par contre, là,
c'est pas la même chose.
Là, c'est l'illégalité, excusez-moi. Désobéissance ou illégalité, c'est... Enfin, qu'on m'explique de quoi on parle ici. Là, ces gens vont faire grève. Ils vont s'opposer. Alors, désobéissance, vous entendez parler de coupure d'électricité aussi. Bon, très bien. Là, effectivement, on est dans l'illégalité, d'accord ? Donc là, à ce moment-là, on va passer dans un autre registre et ça va se passer autrement et je pense qu'ils le savent. Ensuite, si on reste sur la question des grèves, moi je rejoins ce que dit Paul, c'est-à-dire qu'il y a un jeu dupe, mais il y a un jeu dupe des deux côtés à mon avis. Il y a un jeu dupe du côté du gouvernement, effectivement, qui fait tout pour radicaliser ce mouvement parce qu'il va devenir très impopulaire vis-à-vis des Français. Même si, attention, les Français sont contre la réforme, mais pour autant, ils n'approuvent pas forcément la forme de la grève, c'est autre chose. Oui. Mais il y a aussi un jeu de dupe du côté, je pense, des syndicats. Puisqu'à mon avis, les syndicats, ça s'est toujours passé comme ça depuis 20 ans. Les syndicats, ils vont défendre qui ? Ils vont défendre leurs syndiqués. Qui sont les syndiqués qui sont aujourd'hui dans la rue ? Les gens du public et les régimes spéciaux. Accessoirement, ceux qui mettent le régime des retraites en déficit. Eh bien, c'est eux qui auront les bas de laine. C'est eux qui vont s'en sortir. Et quand ils s'en sortiront, les syndicats pourront arriver devant leurs syndiqués en disant « Regardez, on a réussi à vous défendre. Bon, on va s'arrêter là. » Je suis désolé, vous allez dire « Je suis encore cynique, c'est du théâtre. » Mais je pense que c'est comme ça que ça va se passer.
Désolons-nous que certains salariés du privé ne puissent pas bénéficier. Il ne faut pas faire du moins-disant social vers le bas. Il faut se dire « Pourquoi est-ce qu'un chauffeur qui fait de la livraison à domicile ne peut pas se syndiquer ?» Bon, parce qu'il est entrepreneur, etc. Pourquoi les caissières de supermarché ne peuvent pas se mobiliser autant que les policiers, les pompiers,
désobéissance civile, vous dites oui, contre la réforme des retraites ?
Bon, écoutez, il faudrait me dire précisément qu'est-ce que vous appelez désobéissance civile et quel type d'action. Parce qu'après, désobéir,
c'est pas choisir à la carte. Quand à Sainte-Soline, des militants écologistes parlent de désobéissance civile, on condamne. Et quand là, on dit c'est contre la réforme des retraites,
je ne sais pas.
Le problème, c'est qu'il y a désobéissance civile, c'est un slogan. Ça devient un slogan au quotidien politique. Par exemple, la grève, attendez, c'est quoi la grève strictement ? C'est un refus de travailler. Bon, un refus de travailler, on peut dire que c'est de la désobéissance civile. C'est encadré par le droit. Sauf que c'est encadré par le droit. Si après, ce sont des actes qui visent couper l'électricité, je ne sais pas moi, saboter par exemple les raffineries.
Des exemples positifs, par exemple, Caroline Pilas, la CGT Mines Énergie de Marseille, qui veut intervenir sur les compteurs des artisans ou des boulangers pour leur réduire la facture.
Eh bien, écoutez, je vous ai dit ce que j'en pensais, c'était très mitigé, il y en a plein qui ont été en désaccord avec moi. Je suis contre les élus à qui on coupe le courant parce que je trouve que c'est totalitaire. Mais concernant Marseille, j'étais d'accord avec avec cette action, parce que pour moi, c'était soutenir cet artisanat. Voilà, chacun en pense qu'il veut. Oui. Donc, derrière la désobéissance civile, moi aussi, je suis très partagée. Dès qu'il s'agit de violence, vraiment...
C'est une sorte de violence, quand même. Vous laissez la main au syndicat.
Mais moi je dis toujours, c'est quand même pas... Je suis pour que les boulangers arrivent à payer leurs factures et ne meurent pas. C'est mon opinion. Après, je ne dis pas que vous devez me rejoindre. Mais concernant cette réforme, bien sûr qu'elle est impopulaire pour une bonne partie des Français. Une bonne partie des Français qui, comme vous allez le rappeler dans le sondage, Sonia, est contre ce blocage parce que ça va paralyser la France et qu'on n'en a pas les moyens économiquement et que tout le monde en a un peu...
Je vais parler des blocages. Je voulais réagir sur la désobéissance.
La syndicalisation est extrêmement faible en France. Il est élevé uniquement à la SNCF ou à la RATP ou à EDF. Voilà, c'est les seuls trois leviers, les trois seuls leviers où ils peuvent agir. Et les gens des entreprises privées ne sont pas dans la rue.
Ou peu. Est-ce qu'on peut quand même rappeler que cette réforme est impopulaire?
Attendez, juste un dernier point après.
Elle est impopulaire. Une majorité nette de Français sont
contre. Dans un pays où depuis des années on paye le contribuable la construction de la SNCF, construction des réseaux EDF, de tout ce qui est service public, tout d'un coup du jour au lendemain on vous en prive. À quel titre? C'est répétitif.
C'est plutôt les privatisations du président de la République ou de la Commission européenne qui menace les services publics que les syndicalistes.
Vous n'avez pas la même vision.
Moi, je suis plus inquiet pour les biens publics par la Commission européenne ou par des vagues de privatisation, comme a tenté de le faire Emmanuel Macron avec Aéroport de Paris, que par les grévistes. Excusez-moi, je ne pense pas que ce soit ça la grande menace sur les services publics.
Qu'est-ce qui paraît, pardonnez-moi, injuste et inégal dans cette réforme? Pour moi, évidemment, le gouvernement doit revoir sa copie sur tout ce qui a trait à la pénibilité, au chômage des seniors et à l'inéquité faite aux femmes.
Pardonnez-moi.
Non, mais elle a été très mal ficelée. Ils ont eu des mois, voire des années, pour en faire quelque chose d'audible.
On se retrouve avec un mur syndical, même si ce fissure, pardonnez-moi un peu, des oppositions et un gouvernement qui dit pour l'instant non, je ne recule pas. Et les Français au milieu, bien 58%, ils sont contre les actions de blocage. C'est ça qui m'a intéressée, parce qu'évidemment, ils sont majoritairement contre la réforme des retraites, mais contre les blocages. Alors, comment est-ce que tout cela peut s'analyser? Est-ce qu'il y a une forme de résignation? Regardez les explications. Justement, ils vont en parler juste après.
À la question, approuvez-vous les syndicats qui appellent à bloquer le pays? Une majorité, 58% des Français répondent non et se préparent déjà à des semaines difficiles.
C'est toujours les mêmes de toute façon qui se plaignent, mais c'est souvent les moins concernés. Donc voilà, moi je ne ferai pas grève, je continuerai à travailler pour eux. Mais voilà, c'est un beau bordel qui s'annonce.
On est tellement habitués à ça, surtout au moment des vacances.
Au contraire, 41% des Français répondent oui et évoquent la nécessité de paralyser le pays pour faire reculer le gouvernement.
Bah, je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on peut se faire entendre, que les gens peuvent se faire entendre, parce que sinon ils n'y arriveront pas. Alors je sais que ça embête plein de gens.
Ça me fait espérer, ouais, carrément un blocage, un truc qui marque le coup, en fait, pour de vrai. Une bonne fois pour toutes. Voilà, pour passer un vrai message. Et puis voilà, on galère une bonne fois et on passe à autre chose, on enlève la réforme.
La réponse des Français n'est pas la même selon l'âge des questionnés. Si 60% des 18-24 ans approuvent la demande des syndicats, ils ne sont que 26% pour les 65 ans et plus. Quant à la proximité politique, 70% des Français qui se situent à gauche se disent en accord avec les demandes des syndicats. La proportion est inversée à droite, avec seulement 33%.
Oui, mais je trouve ça très intéressant. Donc contre majoritairement la réforme et contre majoritairement les blocages. Mais alors comment on fait?
C'est un moment... Écoutez, bienvenue en France. Voilà, c'est très français comme situation. C'est-à-dire que
ça,
les Français...
du charme quand même.
Et les Français ont voté majoritairement au second tour pour un président de la République qui avait mis très clairement dans son programme cette réforme de retraite. Écoutez, ils l'ont. Et ils ne sont pas contents, voilà, parce qu'en France, on ne produit plus de consensus avec les élections. Le second tour est devenu un second tour par défaut, du fait d'une campagne de diabolisation, etc. etc. Bon, maintenant, on le voit bien sur la forme, bah oui, ils désapprouvent les méthodes. Évidemment, ils désapprouvent les méthodes, mais sur le fond, ils approuvent. Ensuite, comment résoudre l'équation entre ce qu'a voté une majorité des Français au second tour de l'élection présidentielle et ce que pensent aujourd'hui les Français sur un sujet important, qui est la réforme des retraites? Eh bien, la solution de cette équation, je pense qu'elle est dans le référendum.
Je me souviens d'une phrase d'Emmanuel Macron juste après l'élection, où il a dit « j'ai conscience », mais je travestis les mots, je ne les ai pas exactement en tête, que tous les Français ne sont pas d'accord avec mon projet, n'ont pas voté pour mon projet, et j'en tiendrai compte.
Oui, ça, en général, c'est des obvieux,
oui,
des surprises.
Attendez, Éric, il n'a qu'une réforme, c'est celle des retraites. Alors s'il l'abandonne...
Il y en aura d'autres. Alors, ce qu'il aurait dû faire, c'était avoir autour de la table les partenaires sociaux. N'oublions pas que la Caisse nationale d'assurance vieillesse, le système de retraite, a été créé par le patronat et par les organisations syndicales. C'est eux qui ont créé le système et c'est eux qui le géraient. Et ils ont été, enfin en tout cas les syndicats ont été exclus de la discussion. Il n'y a pas eu, il suffisait de mettre autour d'une table tous les partenaires, il y avait fait des propositions. Vous savez, c'est toujours mieux de donner l'impression que ce sont les autres qui décident. Et c'est ce qu'ils auraient dû faire. Là, c'est en plus l'âge légal, le report de l'âge légal a été imposé. Et ça, peut-être que c'est une erreur. Il fallait peut-être plus travailler sur les cotisations, sur le travail des plus anciens. Il y a un ensemble de mesures proposées par les syndicats qui n'étaient pas mauvaises.
C'est ça. Ben, on n'y est pas. Ah oui, là, ils tiennent véritablement. C'est leur
thème. Comme effectivement les pensions. Ben non, il y a d'autres leviers comme les pensions.
Écoutez, une assurance. Quand vous avez une assurance voiture, si vous avez beaucoup d'accidents, vous payez plus cher. Voilà. Et ben en France, on dépense énormément. Pour les retraites, plus qu'il ne faut, c'est normal que ça suive les cotisations. Ou alors, sinon, il faut travailler plus longtemps. Enfin, selon la démonstration faite par le gouvernement, de travail jusqu'à 64 ou 65 ans. Mais je crois qu'il y a des spécialistes pour évaluer ça. Le Conseil d'orientation
des retraites a fait des propositions,
mais les chiffres sont
dont le président n'est pas d'accord avec lui-même, avec ses conclusions telles qu'elles sont reprises par le gouvernement.
Et puis, ne soyons pas dupes, on sait très bien que les générations futures devront capitaliser, mettre de l'argent.
Attendez, parce que le débat réforme. Moi, je veux que vous réagissiez à ce blocage, à ce pourcentage.
Je voulais rebondir à ce que vous disiez, Sonia, qui est en lien avec le sondage, sur l'appréciation qu'ont les Français d'une réforme des retraites, eu égard le fait que le président de la République a été effectivement élu, naturellement, au second tour. S'il était un démocrate sincère, sincère avec ceux qui l'ont élu, il se dirait « j'ai été élu dans des circonstances exceptionnelles ». Et les 60% des gens qui m'ont élu ne sont pas 60% des gens qui ont dit « nous voulons la réforme des retraites, donc nous votons Emmanuel Macron ». Évidemment que ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Probablement qu'il y a, il faudrait regarder les scores de premier tour, et qu'au score de premier tour, il y a probablement 25-28% des Français qui sont favorables à la réforme de retraite, qui ont voté pour lui. On peut être sympa et agglomérer les 5% de Mme Pécresse, et puis c'est tout.
Vous gouvernez plus.
Parce que derrière, vous gouvernez plus, je ne sais pas, mais en tout cas, ceux qui gouvernent aujourd'hui et qui décident du report de l'âge de départ à la retraite dans tous les pays d'Europe, c'est la Commission européenne. Et cette Commission européenne, elle n'est pas élue au suffrage universel direct, que je sache.
À chaque fois que je pose la question à un ministre, on me dit jamais, ce n'est pas Bruxelles du tout qui exige. Mais il me dit, regardez les autres pays européens et de fait, regardez l'âge de départ.
Même des gens sincères qui sont favorables à cette réforme, et ils ont bien le droit, disent qu'il y a des directives européennes qui vont dans ce sens. Éric de Rimatten, très sincère et honnête intellectuellement.
Éric, un mot avant la pause.
Oubliez que le premier mandat d'Emmanuel Macron, il était favorable à une retraite à points, un peu calé sur le système de la GIR 40. Et que rappelez-vous, l'âge pivot, c'était 64 ans, je crois me souvenir. C'était ça le niette, pas question d'un âge pivot. Finalement, on en est revenu. Et ça a fait, Edouard Philippe est parti, Jean-Paul Delevoye.
Il est parti, il est bien parti.
Et on en est revenu à ce blocage d'une sorte d'âge pivot.
On va continuer à en parler, parce que ça m'intéresse. Ce qu'a dit, par exemple, le patron de la SNCF, lui, dit craindre une grève dure, mais c'est ce qui est en train de se profiler. Oui. Donc, mais moi, je veux dire, comment il anticipe ça? Est-ce qu'il y a un service minimum?
Comment il a anticipé la grève des contrôleurs, M. Farandou? Moi, je lui ferai pas confiance.
Non, mais
moi, depuis l'histoire du chat.
Mais on ne vous dit pas combien ça va coûter à la SNCF de rembourser les billets
déjà pris.
Mais si,
vous allez nous dire. Une courte pause et on se retrouve sur ce sujet et d'autres, bien sûr. Merci d'être avec nous. La suite de votre édition Midi News. Nous allons parler dans quelques instants de l'Ukraine après les chars. Voici la demande sur les avions de la part de Zelensky. Alors, en veut-il trop? Et puis, jusqu'où faut-il aller? Y a-t-il une ligne rouge? Nous serons avec nos invités. Et puis, Pierre Lelouch, qui nous a rejoint. Je le salue. Bonjour à vous, ancien ministre. Bonjour. Vous êtes l'auteur d'une tribune qui a été remarquée. En Ukraine, n'est-il pas temps de s'interroger sur une sortie de cette guerre? Alors, c'est un peu à contre-courant, si je puis dire, avec ce qui est en train de se passer. Vous nous expliquerez ce qui motive cela. Mais tout d'abord, c'est le journal. Bonjour à vous, cher Michael.
Rebonjour Sonia, bonjour à tous. Les raffineries sont en grève aujourd'hui contre la réforme des retraites. Les centrales électriques, les ports et les docks sont également concernés. Mardi pour la journée de mobilisation nationale, la grève touchera tous les secteurs, mais la CGT Énergie annonce déjà vouloir aller chercher encore plus de grévistes. Et alors, approuvez-vous les actions des syndicats qui appellent à bloquer le pays contre la réforme des retraites? C'est la question que l'on vous pose dans notre dernier sondage CNews. Et le résultat, le voici, vous êtes 58% à répondre non et à ne pas approuver ces actions. Dans le reste de l'actualité, les demandes d'asile bondissent de 31% en France en 2022, avec plus de 137 000 premières demandes enregistrées dans les guichets uniques dédiés. Ce nombre a progressé de 31,3% par rapport à 2021. Elle dépasse même le record d'avant la pandémie. Un sacristain tué et plusieurs personnes blessées, dont un prêtre, dans une attaque à l'arme blanche hier soir en Espagne. L'attaque s'est produite dans une église d'Algeciras, dans le sud du pays. Retour sur ce drame avec ce sujet d'Alexis Vallée.
L'église pleure dans le sud de l'Espagne. Cet homme a été arrêté par les forces de l'ordre, accusé d'avoir tué hier soir un sacristain et grièvement blessé un prêtre dans une attaque à la machette. Vers 19h, dans la ville d'Algeciras, située à la pointe sud de l'Espagne, l'assaillant entre dans l'église de Saint-Isidore d'Algeciras et attaque le prêtre au cou, le blessant grièvement. Il se rend ensuite dans une seconde église, à quelques minutes à pied de la précédente, à Notre-Dame de Palme. Il s'en prend cette fois au sacristain, qui décède sur place. Il s'appelait Diego Valencia. Le parquet espagnol a annoncé qu'une enquête a été ouverte pour des faits présumés de terrorisme.
Et on retrouve notre correspondant en Espagne, Stéphane Treny. Stéphane, une enquête pour des faits présumés de terrorisme a été ouverte. Que sait-on précisément à l'heure actuelle de cette enquête ?
Alors, selon les premiers éléments de l'enquête, il s'agit donc effectivement d'un Marocain de 25 ans, Yacine Kanza, entré illégalement sur le sol espagnol en juin dernier. Il faisait l'objet d'un avis d'expulsion, mais comme il n'avait aucun antécédent judiciaire, il a été laissé en liberté. De sources policières, on pense qu'il n'était pas radicalisé, ou alors très récemment, à travers les réseaux sociaux, vraisemblablement. Et là, la police le surveillait surtout à cause de son profil de marginal. Il squattait dans un appartement et ses deux colocataires signalent aujourd'hui un changement d'attitude intervenu récemment. Il était plus introverti que d'habitude. En tout cas, son mode opératoire laisse penser, selon les premiers éléments de l'enquête, à un acte improvisé par un déséquilibré plutôt qu'un attentat prémédité. La justice espagnole va tout de même mener son enquête comme s'il s'agissait d'un acte terroriste classique. Et l'émotion, évidemment, est vive en Espagne, avec le porte-parole de l'épiscopat qui demande à ne pas relier cet attentat à la religion islamique, le représentant des musulmans de Gibraltar qui condamne, je cite, ce lâche attentat islamiste. Et une journée de deuil et une marche blanche a été convoquée par le maire d'Algeciras.
Merci Frédéric et non pas Stéphane. Frédéric Treny, notre correspondant CNews en Espagne. La suite des débats de Midi News dans un instant avec Sonia Mabrouk et ses invités. Mais juste avant, le sport et du handball avec l'équipe de France qui s'est qualifiée hier soir pour les demi-finales du Mondial.
Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Votre programme sport avec Newman.
Les Bleus félicitent Rémi Desbonnets, grand artisan de la qualification pour les demi-finales contre l'Allemagne. La France court derrière le score jusqu'au retour des vestiaires et le début de l'état de grâce de Rémi Desbonnets. De quoi libérer les Bleus qui déroulent enfin. L'équipe de France s'impose finalement 35-28 et tentera de prendre sa revanche contre la Suède pour une place en finale, 2 ans après la désillusion en Égypte, déjà en demi.
Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Votre programme sport avec Newman.
Vos débats, Midi News, je vous le disais, nous sommes avec Pierre Lellouche, ancien ministre, auteur d'une tribune remarquée publiée dans Le Monde, intitulée « En Ukraine, est-il pas temps de s'interroger sur une sortie de cette guerre ?» On va longuement en parler. Éric de Ritmaten est resté avec nous, je l'en remercie. Jérôme Jiménez, porte-parole IDF, UNSA Police nous accompagne. Paul Melun, Caroline Pilas, je voudrais qu'on revienne encore quelques mots sur tout ce qui va se passer, les grèves en série peut-être pour la SNCF, les blocages, les appels à la désobéissance. Et puis ce sondage de notre chaîne qui montre, Pierre Lellouche, que 58% malgré tout des Français sont contre les blocages, même s'ils sont une nette majorité contre la réforme des retraites. Éric nous disait que c'est un petit peu le paradoxe français. Vous le comprenez ?
C'est pas du tout un paradoxe. Je crois qu'il y a un vrai problème avec cette réforme qui est pourtant une réforme, à mes yeux, à minima. Hein, c'est franchement pas une révolution, mais le gouvernement s'y est tellement mal pris. D'abord, sur le timing, on est en pleine guerre, il y a une inflation, il y a énormément d'angoisse dans le pays avec les augmentations qui ont déferlé dans tous les magasins, y compris sur l'alimentaire. Mettre une réforme de ce genre en ce moment, c'est le pire moment. Alors qu'elle aurait pu être présentée depuis des mois, ça fait des mois et des mois qu'on en parle. Elle a été reportée après Noël, après la Coupe du Monde de foot, on est au pire moment. Deuxièmement, le gouvernement... En plus, la procédure parlementaire qui choisit les 5 ou 6 semaines qui nous séparent d'une décision, évidemment, sont mises à profit par la mobilisation. Et l'explication du gouvernement, on voit bien qu'ils en mêlent eux-mêmes les pinceaux entre les différents ministres. Enfin bref, Tout ça rend la chose très compliquée et durcit l'opposition. Mais en même temps, les Français, ils n'ont pas envie de...
Ils veulent circuler, aller au travail.
Ils souhaitent une sortie par le haut, soit que la réforme soit modifiée, soit retirée. Mais on n'en est pas encore là. Mais je pense que le gouvernement est assez mal parti dans cette...
Vous pensez qu'on peut arriver à un retrait, non, de la réforme des retraites ?
Retrait, je ne sais pas, mais...
Qu'en sera-t-il du quinquennat d'Emmanuel Macron ?
La procédure parlementaire. Ils peuvent passer en force, clairement, mais ils peuvent aussi laisser derrière eux, s'ils passent en force, un pays qui sera très malheureux, très en colère, et préparer la prochaine crise. Donc... je crois qu'il faut qu'ils trouvent une voie moyenne avec les syndicats, mais pour l'instant, ils ne se parlent pas. Alors, on tombe sur la situation en Ukraine où personne ne se parle.
Ah bon, on va en parler.
Ça c'est pas très bon.
Ce qui m'intéresse là, c'est à qui seront imputés les blocages, mais les blocages durs, selon vous, Jérôme Jiménez. Parce que, alors, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes à la fois manifestant et à la fois vous êtes représentant de l'autorité, de l'ordre et du respect des règles. Alors après, donc je suppose que vous êtes parmi ces Français qui sont contre le blocage.
Ben déjà, nous, qu'est-ce qu'on entend par blocage ? Moi, je n'ai pas encore la visibilité sur ce qui a été réellement annoncé par mon syndicat. Ça, c'est une chose. Après, 58% des Français contre le blocage. Moi, je pense aussi, il y a deux sujets, moi, je pense. Est-ce que, on ne porte pas encore, les Français, le stigmate de la pandémie ? Ça, c'est la première des choses, par blocage. Et deux, il faut quand même rappeler que quand il y a blocage... individuellement parlant, il y a des personnes qui ont été mises à mal et dans des situations financières, économiques, sociales, éducatives, en réelle difficulté, quand il y a blocage. Donc je pense que c'est pour ça qu'on a, à mon sens, un taux aussi fort, parce que individuellement, c'est très difficile de vivre ou parfois même de survivre.
Vous collectivement, et en pensant à eux, les Français sont contre cette réforme des retraites, mais évidemment, le droit de circuler, de pouvoir aller travailler, etc., et bien chacun pense...
Quand ça impacte votre quotidien, c'est très lourd.
Beaucoup dépend de l'intelligence tactique des syndicats. S'ils savent utiliser le temps sans se mettre à dos la population. S'ils arrivent à faire ça, je pense que le gouvernement sera en grande...
Dans ce cas-là, la bataille de l'opinion, elle est pliée, Pierre Lelouch.
Donc chacun joue sa partition... Le gouvernement doit mieux expliquer ce qu'il essaye de faire, trouver des alliés au Parlement. Mais ça, c'est compliqué, parce que dans mon ancienne famille politique, il y a peu de gens qui ont envie de se suicider en défendant une réforme qui est portée par quelqu'un d'autre.
Symboliquement, mais vous pensez... Parce que moi, je pense beaucoup à ces parlementaires LR qui reviennent de leur circonscription le week-end et à qui on a dit pendant deux jours, mais au pique-pan de cette réforme, et qui se disent, mais enfin, finalement, c'est pas une bonne idée.
Pourquoi aller mettre la tête sur le bio alors que... Oui. Le porteur de la réforme n'est même pas de son camp.
Mais peut-être parce qu'on a des convictions. Les LR n'ont pas arrêté de dire qu'il fallait repousser l'âge de départ.
Ça veut dire que le groupe sera divisé.
Ben voilà.
Combien vont finalement voter la réforme, c'est toute la question. Mais là, le gouvernement a un vrai sujet. Si les syndicats jouent intelligemment l'affaire sans rentrer dans des blocages qui seraient impopulaires, alors on peut être dans une équation très compliquée pour le gouvernement.
Non, mais je pense... Caroline ? Qu'actuellement, c'est 50-50. On va voir jusqu'où ira le blocage. Concernant la SNCF, il faut quand même rappeler qu'il n'y a pas que des gens qui prennent le train pour partir au sport d'hiver. Vous en avez aussi qui vont voir, si ce sont des enfants, leurs parents, le père, la mère divorcée, les grands-parents, des amis. Et ça impacte surtout, je suis désolée, la classe moyenne ou la classe précaire, puisque les gens qui ont les moyens peuvent prendre l'avion, peuvent réserver une voiture. Donc ça va être encore la classe moyenne qui va être très impactée concernant ces grèves. Mais il faut rappeler que c'est un rapport de force, puisque la Macronie, qui elle-même est en pleine scission actuellement.
Scission.
Parce que, bien sûr, il y a
des fragilités. Est-ce qu'on peut parler de frondeur ? En tous les cas,
je ne sais pas, mais il y a un clivage, exactement. Il y a, au sein de Renaissance, l'aile gauche, quand vous les entendez, même médiatiquement, et contre, c'est pour ça qu'il y a autant de couacs et que la communication est nullissime. Et je pense que si cette retraite passe aussi mal en dehors des questions d'inégalité...
Donc, il y a un bon costard.
Moi, je vous dis les choses comme je les pense, surtout en tant que citoyenne avant d'être éditorialiste. Sûr. C'est parce qu'ils l'ont très mal amené. On sait très bien que si on veut faire perdurer le système des retraites, il va falloir travailler plus.
Mais pas
à tout prix. Oui, mais ils disent tout et leur contraire. Quand vous écoutez les uns ou les autres, ça n'est plus audible. Donc, les citoyens...
Non, mais il faut reconnaître aussi que le rapport au travail a tellement profondément changé depuis la crise Covid, peut-être que c'est
même
un débat.
Même avant.
Je trouve que ça a fini quand même d'achever une bonne partie de...
Entre nous, si vous avez simplement utilisé la méthode de Marisol Touraine.
Laquelle ?
Ben, l'allongement des années de cotisation, sans toucher au chiffon pareil. Rouge de l'âge de la retraite. La retraite
revient pour bien,
ça revient exactement au même. Mais là, le chiffon rouge de l'âge de la retraite qui a été utilisé par François Mitterrand le premier, parce que c'est quand même lui qui a fait cadeau des 5 ans aux Français en 1982.
Oui, 60 ans quand même.
Bon. Voilà. Bah, ce chiffon rouge, il est là, il est agité. Et tout ça intervient, Éric de Reitmatten, sur fond de crise multiple. Pouvoir d'achat, inflation, vous l'avez rappelé, Pierre Louche. Est-ce qu'il y a, j'allais dire, je ne sais pas, une petite flamme d'espoir? Est-ce qu'il y a un petit réacteur qui va marcher de nouveau, qui peut un peu nous soulager?
Les bonnes nouvelles, vous voulez dire?
Un petit
vous
peu, oui.
Des réacteurs.
vous voyez de quoi on se contente aujourd'hui. Vous allez me faire le journal des bonnes nouvelles.
Vous allez parler du chômage qui baisse massivement en France.
Oui, aussi. On va vers le mais ça a marqué emploi. Que ouais. C'est étrange. Il y a quelques années, je vous aurais parlé que du chômage. C'est une priorité. C'est aujourd'hui, c'est plus un sujet qui est dans le débat public et politique.
Encore que ça risque de redevenir un problème, parce que s'il y a des crises à répétition, le fameux 5% visé par l'État d'avoir un plein emploi à 5%, c'est pas sûr.
Les réacteurs.
Alors,
m'intéresse.
La bonne nouvelle, c'est que enfin, il y a un réacteur qui redémarre ce matin. Donc là, c'est plutôt bien, parce que ça va quand même servir 1,5 million de Français. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est parce que petit à petit, d'après RTE, d'après EDF que j'ai appelé ce matin, le risque de pénurie s'éloigne quand même, le risque de coupure s'éloigne, sauf si bien sûr il y a des mouvements sociaux, parce que c'est toujours pareil, hein, si on coupe le courant électrique, là on sera bien embêté. Alors en tout cas aujourd'hui, ça remarche, il y a une centrale qui remarche, et je vais vous donner le dernier chiffre, 12 réacteurs à l'arrêt sur 56. Donc vous voyez, il n'y en a plus que 12. Et ce qui est important, c'est que...
Oui,
c'est
le verre à moitié plein, c'est bien.
La moitié quand même à un moment, c'était quand même la moitié. Hein. Et surtout, ce qui est important, c'est que cette centrale, vous savez, c'est celle qui a créé un peu la panique, puisque c'est celle de Civaux, qui se trouve près de Poitiers, et c'était la plus récente, la plus jeune, elle a même pas 20 ans. Et donc on avait vu de la corrosion, et donc c'est entraîné l'arrêt des 50%, enfin de la moitié des autres réacteurs en France pour vérification. C'est ce qui a créé cette panique cet hiver.
Bien, et c'est ce qui explique aussi en grande partie le montant de nos factures, et pas forcément la guerre en Ukraine qui a bon dos sur ce sujet-là. On peut le dire ainsi?
Non.
Ah bah, non, c'est en partie la guerre en Ukraine, mais c'est pas tout qui explique
européen.
Tout ça. Oui, mais c'est beaucoup la guerre en Ukraine.
Ah, beaucoup. Vous vous dites que c'est beaucoup. Certains disent que ça n'a pas un impact si important.
La fixation du prix de l'électricité est basée sur le gaz.
Bien sûr, c'est le marché
européen.
Or,
le gaz a explosé après la fermeture des robinets russes.
Dites-nous pourquoi on n'est pas sorti de ce marché européen d'électricité, même temporairement.
Parce que le gouvernement n'a pas réussi à convaincre les Allemands. Et M. Bruno Le Maire le dit à sa manière, mais la vérité c'est qu'on a échoué à faire bouger la ligne allemande, et donc l'électricité reste fondée sur
le gaz. Mais on a essayé, on a engagé un bras de fer avec l'Allemagne.
Je ne sais pas jusqu'à quel point ils ont... En tout cas, ils n'ont pas fait la chaise vide, ils n'ont pas fait la rupture. Au contraire, ils ont essayé de ménager. Mais pour en venir à l'Ukraine, regardez ce qui s'est passé le week-end dernier. C'était le grand sommet Scholz-Macron pour célébrer le 60e anniversaire du traité de l'Elysée. Donc c'était la grande réconciliation. Il en est sorti quoi? Rien sur le prix du gaz, mais surtout sur l'Ukraine. Rien du tout.
Alors parlons-en. Je voudrais rappeler ce qu'il en est. Pardon Pierre Lelouch, et je vous laisse.
C'est ça qui est important.
Mais bien sûr, poursuivre votre argumentaire. Donc je voudrais simplement dire que Kiev a été visé cette matinée déjà par plusieurs dizaines de missiles russes. Alors est-ce que c'est la réponse et les représailles de Poutine? Après la décision de livraison de chars lourds à l'Ukraine, c'est difficile de le dire. Simplement un point d'étape. Les États-Unis vont livrer 31 chars Abrams. La France hésite à envoyer quelques chars Leclerc. L'Allemagne va livrer 14 chars Léopard. Et quand on dit cela, rendons-nous compte qu'ils mettent quelques temps pour arriver, parce qu'on a l'impression que les chars sont déjà sur le terrain. Ce n'est pas le cas. Et depuis ce matin, le président Zelensky demande déjà des avions de chasse, ce qui nous fait poser la question, est-ce qu'il va trop loin et jusqu'où faut-il aller? Vous êtes l'auteur de cette tribune remarquée, je le disais, dans le journal Le Monde, intitulée « Non, il faut prendre le chemin inverse ». Mais comment, Pierre Lelouch, dans un tel contexte?
Je crois que pour comprendre, c'est de comprendre ce qui se passe, et pas seulement les 14 chars ici, les 12 là, etc. Il faut comprendre où on en est dans cette guerre qui dure depuis 11 mois. Les Russes attaquent le 24 février, ils sont tout de suite battus. Dès le mois de mars, ils ont perdu leur objectif central, qui était de prendre le pouvoir à Kiev, donc de prendre l'Ukraine. Raté. Ils sont obligés de se replier. Jusque-là, les Américains n'interviennent pas et même disent « je ne veux pas intervenir, je ne ferai que des sanctions économiques ». Ils ne livrent que quelques missiles anti-chars
au début de la guerre. Et leur renseignement
quand même. Et bien sûr, le renseignement qui était essentiel. Ensuite, on arrive à l'été. À partir du mois d'avril, les Américains mettent énormément de moyens, et notamment ce qu'on appelle les HIMAR, c'est-à-dire des lance-roquettes extrêmement précis, guidés par satellite, qui tirent jusqu'à 60 km. Nous, on livre des Césars, et c'est cette artillerie à longue portée qui va permettre l'offensive réussie sur le nord, c'est-à-dire la région de Kharkiv, et sur Kherson. Donc, les Ukrainiens regagnent du terrain. Depuis deux mois, les choses changent. La ligne de front est gelée sur un millier de kilomètres. Les Russes pressent sur Bakhmut, ce qui immobilise beaucoup de forces ukrainiennes. Et le but des Ukrainiens, c'était de percer vers le sud, de reprendre ce qu'ils appellent le corridor sud en direction de la Crimée, faire reculer les Russes et reprendre la Crimée. C'est ça leur objectif stratégique, qui implique de pouvoir passer en profondeur, traverser
et
les
rapidement,
Liens, enfoncer les défenses.
Comme une opération blitzkrieg, bon. Mais ça n'a pas été permis.
Et donc, ce qui se passe, c'est qu'au Pentagone et à la Maison Blanche, en liaison avec les Ukrainiens, on considère désormais que le front est engelé, on risque un enlisement de la guerre, on risque une usure des soutiens occidentaux. Je rappelle que l'Amérique a mis 100 milliards
sur la table. Et des opinions publiques.
Ah, l'Europe, 50 milliards. Que de l'autre côté, il y a des sociétés qui souffrent à cause de l'inflation et tout le reste. Donc, Zelensky dit, moi, je veux attaquer, donnez-moi les moyens d'attaquer. Donc, l'idée, c'est de lui donner des chars. Lui, en plus, il veut naturellement des avions, ce qui est logique, parce qu'on n'envoie pas des chars
quoi, la prochaine
sans
étape
couverture
aérienne. C'est des soldats, alors?
Non, c'est toute la question. C'est,
mais je ne sais pas, je pose la question. Voulez, moi, est-ce qu'il y a une ligne rouge ou pas?
La question que j'ai posée, c'est mon devoir. Il se trouve que je connais les relations internationales depuis toute ma vie, que je connais bien l'Ukraine. J'étais le seul Français décoré par Yushchenko en 2004. J'étais à nouveau à Maïdan en 2014, le seul. Donc aujourd'hui, beaucoup de gens parlent d'Ukraine. Après des années d'indifférence. L'Ukraine, la Russie, je connais bien, les États-Unis aussi. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on est en train de passer d'une stratégie d'aide à la défense de l'Ukraine, qui a fonctionné, à une stratégie offensive en direction de la Crimée, avec des risques naturellement que ça déborde. La Crimée,
d'accord.
Les Russes considèrent que c'est à eux. En vérité, ça n'a jamais été ukrainien, c'était tatar, turc, pris par Catherine II et rattaché artificiellement, pour des raisons administratives, par Khrouchtchev en 1954. Mais la Crimée, ça n'a jamais été ukrainien.
Mais dites-moi, mais donc, le président Biden le sait, ce que vous dites. Le chancelier allemand le sait. Donc, c'est bien, ils sont d'accord avec cette nouvelle stratégie.
Alors, Scholz et la moitié de l'opinion allemande étaient très réservés. Pourquoi? Parce que la dernière fois qu'il y a eu des chars allemands dans cette zone, il y a eu la grande bataille de course, il y a eu 5 batailles de chars. 6000 chars, 4000 avions, 2 millions de soldats. Ça a été une hécatombe, les guerres en 1943. Avec les Allemands, le front de l'Est, c'est dans leur...
C'est un traumatisme.
Quant à Biden, lui, il continue à répéter qu'il ne veut pas de Troisième Guerre mondiale. Et il ne voulait pas envoyer de chars. Il se trouvait toutes les mauvaises raisons sur le thème. C'est pas le même combustible, c'est trop compliqué. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait une annonce de 31 chars pour permettre à Scholz de faire ses propres livraisons et d'autoriser surtout les autres à livrer leurs léopards, en sachant bien que les chars américains n'arriveront pas sur place avant plusieurs mois, peut-être automne, peut-être jamais.
Parce qu'on dit, on dit livraison
donc,
des chars.
Donc en réalité, c'est un écran de fumée pour permettre à Scholz de faire ce qu'il voulait, ce qu'il n'avait pas envie de faire.
Oui, mais
donc il va y avoir des chars léopards qui vont venir de différents endroits.
Mais les opinions publiques aujourd'hui...
Elles sont complètement
hier, on m'a posé la question, mais même...
C'est pour ça que j'ai écrit cette tribune.
On m'a dit, mais est-ce qu'on va vers une troisième guerre mondiale? Les gens se posent cette question-là aujourd'hui.
Oui, mais ce qui est scandaleux dans cette histoire... Moi, je ne suis pas... Encore une fois, je suis pour qu'on aide les Ukrainiens, mais je suis pour qu'on arrête cette guerre. Et qu'avant d'aller dans une escalade, avant d'aller dans une escalade, il fallait peut-être explorer d'autres façons de faire.
Quand vous avez dit cela, beaucoup de gens ont dit, non mais attendez, une telle position, pardon du mot, c'est Munich, c'est pas possible, c'est être pro-Poutine, c'est capituler avant même de mener la bataille.
Vous savez quoi, madame,
c'est pas moi qui le dis,
madame Mabrouk, vous savez ce qui est en train de se passer? C'est que le wokisme est en train d'envahir la géopolitique. C'est-à-dire que maintenant, il y a une vérité absolue que chacun est sommé de suivre, et que tout avis, même le questionnement, en disant « vous êtes sûr que c'est la bonne chose », ça passe pour quelque chose de profondément immoral, donc intolérable, donc vous êtes discrédité. Et dans le meilleur des cas, vous passez pour
Pierre
un agent de Poutine. C'est absolument insupportable.
La position
insupportable.
De Carl Lelouch, moi je l'ai entendu chez Hubert Védrine, Dominique de Villepin, Henri Guénaud, Monsieur Gourde-Montagne. qui était conseiller, qui connaît très bien toutes les années Jacques Chirac. Et, bon, c'est quand même des gens qui ont une expérience.
Tous ceux qui ont un petit peu d'expérience de ces choses disent il faut réfléchir. À tout le moins, ça méritait un débat,
pourquoi on peut pas
au minimum
tenir,
à l'Assemblée.
En tout cas, toutes les personnes que vous citez, moi j'ai un immense respect pour ces personnes-là et je pense qu'on serait bien avisé de les écouter, d'écouter votre analyse à laquelle je souscris parfaitement sur ce conflit. C'est-à-dire que nous sommes effectivement à une époque qui ne souffre pas la nuance, qui n'arrive pas à comprendre que c'est pas parce qu'on dit qu'il faut une solution politique, diplomatique à ce conflit et que l'enlisement militaire, voire l'escalade militaire n'est pas le nirvana et n'est pas la panacée, qu'on est un poutinolâtre ou qu'on est pro-Poutine. Naturellement, non. Et effectivement, on peut avoir un peu de nuance et dire qu'on condamne sans réserve l'invasion russe en Ukraine, que la protection et la défense du peuple ukrainien depuis le début était un impératif moral de la part de l'Occident et qu'on a bien fait de venir en aide aux Ukrainiens, mais que maintenant, les prétentions territoriales de Volodymyr Zelensky, sa volonté de conquête, il faudrait peut-être aussi un peu la contenir.
Vous considérez que les territoires qui ont été occupés, doivent être rendus à l'Ukraine.
Et justement, Sonia, c'est précisément là que la solution diplomatique arrive, c'est qu'il faut pouvoir négocier là-dessus.
Non, il n'y a pas de...
pouvoir en parler.
On peut concevoir, et on doit concevoir qu'il faut que l'Ukraine retrouve la plénitude de sa souveraineté territoriale, avec une question sur la Crimée, encore une fois, parce que, historiquement... D'ailleurs, il y a plein de régions en Ukraine, honnêtement, qui n'étaient pas ukrainiennes dans l'histoire, qui étaient autrichiennes, qui étaient polonaises.
Bien sûr.
Donc, les modifications de frontières, qui sont considérées comme impensables aujourd'hui, elles l'ont été faites à maintes reprises dans le passé, pour avoir la paix. Est-ce que l'idéal, c'est... le maximum, c'est la moralité absolue, c'est le droit absolu, ou bien est-ce qu'il faut quand même essayer de trouver une solution pour avoir...
C'est une vraie question.
Le problème
Poutine
est aggravé.
Poutine n'acceptera pas la défaite. Attendez, il y a quand même un pays qui est envahi.
Non mais
pardonnez-moi. Moi, je veux bien qu'on critique Zelensky du matin au soir en termes de communication,
personne
d'attitude. Mais son pays a été envahi. Il essaye de se défendre autant qu'il est.
Mais madame,
et on ne peut absolument pas me taxer de wokiste. Simplement, je vois les faits. Je n'ai pas... en jeu de mots cynique, les armes, évidemment, pour trouver une désescalade. Moi, je cautionne l'attitude de M. Macron au démarrage, qui a essayé un maximum de conserver une négociation, un dialogue, un genre de lien, entre guillemets, amical avec Poutine. Mais quand j'entends maintenant son discours à l'inverse, où il, quelque part, se retourne contre Zelensky en disant qu'il ne faut pas humilier la Russie, je suis aussi choquée et outrée, parce qu'elle est où, cette désescalade?
Mais Macron, c'est jamais...
Pierre Lelouch, vous allez répondre, non mais doucement, tranquillement, on a le temps. Une courte pause en même, parce que ça, c'est le cœur du sujet. À tout de suite. La suite de Midi News et ce sujet, un tournant dans la guerre, sans point d'interrogation, c'est un tournant avec la livraison à venir, hein, parce que la décision a été actée de ces chars qui vont prendre la direction de l'Ukraine. Et puis aussi la question qui se pose, et maintenant, des avions, et après, quelle ligne rouge? On va en parler. Tout d'abord, les titres, c'est News Info de Roberto.
Plus de 65 000 déplacés ukrainiens ont été recensés en France fin 2022. 75% d'entre eux sont des femmes. Les mineurs ne sont pas pris en compte dans ces chiffres publiés par le ministère de l'Intérieur. La majorité des arrivées en provenance d'Ukraine ont été recensées avant le début du conflit ou dans les premières semaines de l'invasion russe. Emmanuel Macron est en visite au centre Station Debout. Ce centre réunit des start-up qui allient réalité virtuelle, appareils connectés et robotiques au service de patients souffrant de déficit neurologique. Il est accompagné par son épouse Brigitte Macron et plusieurs ministres. Et puis la CAF, l'assurance maladie, des services publics qui sont difficiles à joindre selon 60 millions de consommateurs. Jusqu'à 7 appels sur 10 n'aboutissent pas. Un constat inquiétant, notamment pour les 15% de Français qui n'ont pas Internet chez eux, majoritairement des personnes âgées, précaires ou étrangères et qui, face à ce parcours du combattant, renoncent parfois à leurs droits.
Le président Zelensky a donc remercié les pays qui vont livrer des chars à l'Ukraine, mais il en veut plus, davantage. Il exige désormais des avions et des missiles à longue portée. On va continuer à en parler, à en débattre. Le général Clermont est avec nous. Général, vous suivez depuis tout à l'heure cette conversation, ce débat. Il est question de la situation et clairement c'est une escalade, un tournant, appelez-le comme vous le souhaitez. Il est vrai. Et on peut le dire que le mot paix n'est même plus prononcé, qu'on ne l'entend plus, qu'on ne le lit plus, sinon dans certaines tribunes où certains exhortent enfin à trouver, à commencer à chercher une sortie de crise. Ce scénario, on a l'impression qu'il est oublié, totalement dépassé.
C'est vrai que le mot paix, le mot négociation a été employé finalement assez abondamment dans la première partie du mois de décembre, et puis il a disparu du paysage parce que maintenant c'est l'hiver, c'est le rapport de force qui se met en place, et à nouveau ça va être la parole va être donnée aux armes, avec une différence très importante entre les Russes et les Ukrainiens, c'est qu'aujourd'hui les Ukrainiens dépendent quasiment totalement du soutien militaire des Occidentaux, alors que les Russes, malgré toutes les difficultés qu'ils ont rencontrées, ont conservé une capacité de fabriquer des armements, une capacité de mobiliser. En quelque sorte, ils ont résisté au choc de la première année de la guerre, et il semblerait que Poutine et les Russes, qui sont maintenant passés, qui ont donc désigné le général Gerasimov comme chef des opérations militaires spéciales, ne sont plus en opération militaire spéciale, mais sont réellement rentrés dans une guerre contre l'Ukraine, et une guerre contre tous ceux également qui défendent l'Ukraine, mais cette guerre se déroule exclusivement en Ukraine, et je crois que c'est un point très important, le fait que la guerre se déroule exclusivement en Ukraine.
Général, une question, pardonnez-moi, parce que dans la rhétorique politique et militaire, il y a généralement des lignes rouges, en tout cas, surtout chez les politiques. Est-ce qu'il y en a une là? Est-ce que quelqu'un, président américain ou autre, a dit à partir de là, non, ce n'est plus possible d'aider l'Ukraine parce qu'on basculera dans quelque chose qu'on ne souhaite pas, tout simplement?
Je crois qu'il reste une ligne rouge qu'on avait du mal à identifier dans les premiers mois de la guerre, mais qui apparaît assez clairement. Et je vais revenir donc pour cela sur l'interview du ministre de la Défense ukrainien qui était dans le Figaro, dans laquelle le journaliste lui pose une question qui est est-ce que vous avez le droit d'utiliser les armements occidentaux lorsque vous menez des opérations en Crimée ou contre la Russie? La réponse du ministre de la Défense ukrainien est non, nous ne le faisons pas, sous-entendu, nous n'avons pas le droit. Les Occidentaux ont assorti une condition très importante à la livraison d'armes, c'est que les Ukrainiens n'utilisent pas ces armes, quelles qu'elles soient, pour frapper le territoire de la Russie, pour frapper les forces russes, ou les villes russes, ou les unités russes qui sont positionnées dans le territoire de la Russie. Et c'est à partir de la Russie que se fabrique la guerre en Ukraine. Donc on a une guerre totalement dissymétrique dans laquelle un pays a droit d'attaquer l'autre, partout, dans toutes ses dimensions, et un autre pays est obligé de se contenter, en quelque sorte, de se défendre, ce qui rend évidemment la guerre plus difficile pour les Ukrainiens que pour les Russes.
Restez avec nous, général Clermont. Mais si l'Ukraine, avec ces armes-là, attaque la Russie, c'est une déclaration là, de guerre totale, Pierre Lellouche.
Oui, c'est une des difficultés. La dernière demande de Zelensky hier soir, après l'annonce des chars, c'est évidemment d'avoir des armes à plus longue portée. Il y a un système qui s'appelle ATACMS. Ce sont les missiles qu'on met dans les tubes des camions HIMARS, qui cette fois tirent à 350 km, c'est-à-dire à l'intérieur du territoire russe. Un avion, un chasseur bombardier F-16, il ne va pas à 50 km. Par définition, il va le long du front et il peut passer de l'autre côté. Donc, ce que j'essaye de dire, c'est qu'on est en train de mettre le doigt dans un engrenage où on va passer d'une chose à l'autre. Un char, par définition, je crois que le général sera d'accord avec moi, c'est pas franchement une arme de défense, c'est une arme de choc pour avancer. Donc l'idée, c'est de percer les défenses russes et de reconquérir le territoire ukrainien, ce qui est logique. Donc, c'est le but de guerre de Zelensky.
Pierre Lellouch, on n'est plus dans la stratégie, les Ukrainiens se défendent. Ça, c'est...
On est dans une reconquête de territoire.
Plier Poutine.
Sonia, c'est dit en toutes lettres dans les communiqués du Pentagone que j'ai lus. Il s'agit de percer les défenses russes, d'aider les Russes à reprendre le territoire. Bon, la question de fond qui est posée aujourd'hui, dans ce moment, qui est un moment de tournant. On a eu les deux premières phases. Il y a maintenant le gel de la ligne de front. Les deux camps se préparent. L'Ukraine veut pousser reprendre l'initiative, reprendre la dynamique. C'est ce que dit le communiqué du Pentagone et de Rammstein la semaine dernière. Mm-hmm. Bon, après là, la vraie question qui se pose pour nous tous, c'est quel est l'objectif de cette guerre?
D'accord, j'ai compris.
Si c'est aller jusqu'à Moscou, virer Poutine, comme le disent certains dans les États baltes, en Pologne ou ailleurs, est-ce que nous ne disons pas nous?
Mais nous, et les Ukrainiens, comme Caroline Pilas vous a interpellé, et les Ukrainiens, qu'est-ce qu'on fait?
Les Ukrainiens, légitimement, ils veulent reprendre leur territoire. Le problème, c'est que nous entrons aujourd'hui dans une guerre non déclarée par procuration entre la totalité des pays de l'OTAN et la Russie.
Ça, c'est ça qui est en train de se passer. Général. Avec un risque que ça déborde côté russe. Alors, il peut se passer trois choses. Un, ça échoue, l'offensive ukrainienne, avec 100 ou 150 chars ou 200 chars, ne suffit pas à percer les défenses russes. Auquel cas, ça va s'enliser à nouveau et les Russes s'en sortiront renforcés. Il y aura peut-être une négociation à ce moment-là. On verra ça d'ici l'été. Deuxième hypothèse, la percée réussit. Et là, on est dans une situation où l'armée russe est battue et où les Russes, dans un premier temps, peuvent prendre une riposte contre les lieux de passage des armements occidentaux. Par exemple, en Pologne. Là, on rentre dans un scénario de Troisième Guerre mondiale. Et il y a un troisième scénario qui est pire encore. L'armée russe s'effondre. Il y a un risque de changement de régime à Moscou. Et là, ils passent aux armes non conventionnelles, c'est-à-dire chimiques ou nucléaires, comme le prévoit la doctrine militaire russe et comme l'ont indiqué les responsables russes. Alors, on peut penser, si on applique la théorie du wokisme, que ce que je viens de dire, c'est rien du tout, ça n'existe pas, ça ne se produira pas. Et donc, ce que vous dites, monsieur, c'est pour faire peur et donc circuler, il n'y a rien à voir. Ou bien on peut penser, et c'est le rôle du chef d'État, qu'il y a une possibilité que ça dérape et que l'engrenage nous amène dans une situation de ce genre. Moi, je veux simplement rappeler que le général de Gaulle, quand il a doté la France d'une puissance nucléaire, et il y a quatre puissances nucléaires dans cette affaire, nous, les Russes, les Anglais et les Américains, l'obsession du général de Gaulle, c'était de ne pas être entraîné dans un conflit qu'on ne contrôlerait pas. Et moi, en tant que, ayant passé ma vie en politique et sur ces sujets,
général,
j'ai dit attention,
vous entendez,
réfléchissez.
Ces trois scénarios, dont les deux derniers sont des scénarios, alors c'est plus que la peur, hein, parce que là, c'est.
Mais il ne s'agit pas de faire peur. C'est pour ça qu'on a besoin d'un débat dans ce pays.
Bien sûr. Général Clermont, je vous laisse réagir à ce qui vient d'être dit. Est-ce qu'il faut envisager aussi ces scénarios?
Bien sûr, c'est normal d'être inquiet parce que tout ce qui se passe est très inquiétant. On a du mal à décrypter toute la réalité d'un conflit militaire qui est compliqué par définition. Mais pour l'instant, j'aimerais quand même attirer l'attention sur le fait que beaucoup de choses vont se déterminer à l'occasion de la fameuse bataille de printemps que les deux camps préparent. Et là, effectivement, les scénarios évoqués par M. Lelouch, on peut arriver à ce type de scénario-là. Mais j'ai envie de dire, on n'en est pas encore là. Pour le moment,
C'est pour ça qu'il faudrait s'interroger, mon général.
Mais je reste sur le rapport de force, si vous voulez bien. J'écarte les réflexions politiques. Je reste sur le rapport de force. Aujourd'hui, le rapport de force, on ne sait pas de quel côté il va pencher. Ce qu'on sait avec certitude, c'est que si les Occidentaux n'aident pas les Ukrainiens à lancer leur contre-offensive ou à résister à une contre-offensive russe, les Russes pourraient aller à Kiev ou pourraient aller à Odessa dans les mois et les semaines qui viennent. Ça, c'est pas du tout impossible. Donc la question, c'est est-ce qu'on s'aligne ou pas sur la stratégie du président Zelensky, parce que c'est le cas actuellement, et celle du président Zelensky, c'est de récupérer la souveraineté sur l'ensemble du territoire. Ça nécessite un effort considérable de la part des Occidentaux, avec, je le rappelle, un point qui est très important, tant que le conflit restera à l'intérieur de l'Ukraine, c'est-à-dire que les équipements occidentaux seront opérés par des soldats ukrainiens à l'intérieur de l'Ukraine, eh bien les risques évoqués par M. Lelouch sont encore... reste encore éloigné. Il faut laisser cette stratégie se développer et on verra si les Ukrainiens ont les capacités d'obtenir les objectifs qu'ils veulent. Moi, ça me paraît très difficile.
Avec la permission de Sonia, mon général, je voudrais vous rappeler ce qu'a dit un autre général, qui n'est autre que le commandant en chef des forces américaines, donc celui qui pilote tout ça, le général Mark Milley, à Rammstein, la semaine dernière, vendredi. Oui. Il a dit... La reprise de tous les territoires occupés en Ukraine cette année me paraît très, très difficile, a-t-il dit. Impossible. Très, très difficile. Autrement dit, la vérité, c'est qu'on va prendre le risque. Mais ils ont acté la décision. Moi, je vis avec. Simplement, je la regrette et j'ai mis en garde. Après, j'espère, mon général, vous avez raison.
Il nous répond.
Et que tout le monde a raison et qu'il ne se passera rien. On verra.
Je n'ai jamais dit qu'il ne se passerait rien. Si vous me laissez terminer ma phrase, j'allais dans votre sens. Je pense qu'effectivement, il sera très difficile pour les Ukrainiens d'arriver à leur but de guerre, c'est-à-dire de reprendre tout le territoire dans les conditions du rapport de force qui est en train de s'installer. Donc après, c'est un choix. Les Ukrainiens sont prêts à prendre ce risque. Ils demandent qu'on les aide à prendre ce risque. c'est Zelensky qui décidera du moment où, éventuellement, il y aura des négociations. Mais ça va être très difficile pour les Ukrainiens de gagner cette guerre.
Général, enfin, c'est intéressant ce que vous dites. Vous
c'est le rapport de force qu'il indique.
Vous dites que c'est Zelensky qui prendra la décision de savoir s'il peut y avoir ces concessions ou pas. Mais nous sommes partie quand même prenante aussi. Est-ce qu'il ne faut pas qu'il y ait... Alors, je dis ça, ça paraît simple, mais quand même... Je crois que ça concerne tout le monde aujourd'hui. Ça ne concerne plus que M. Zelensky et les Ukrainiens.
Oui, peut-être d'un mot là-dessus, quand on voit l'intensité, la puissance du rapport de force qui est en train de se mettre en place, et quand on voit la dangerosité des scénarios qui ont été évoqués auxquels je souscris, on se dit que faire reposer l'avenir de la stratégie occidentale dans la zone sur la tête de M. Zelensky, c'est irresponsable. Par conséquent, je pense qu'on a eu tort jadis de ne pas mieux considérer un certain nombre de propositions de négociation et de sortie diplomatique du conflit qui avaient été notamment proposées à Ankara, etc. etc.
Et même avant,
depuis longtemps, un certain nombre de protagonistes de la diplomatie à l'international prônent une sortie de crise par la diplomatie, par la négociation.
On peut le regretter,
là,
aujourd'hui nous
on n'en est plus là. Le problème c'est que si on ne veut pas effectivement aller vers cette troisième guerre mondiale et qu'on a envie d'une sortie de crise pacifique, eh bien il faut absolument mettre les acteurs autour de la table et
là,
ne pas aller sur cette stratégie.
Dans la manière dont vous avez présenté les choses, vous dites si on n'aide pas les Ukrainiens, voilà ce qui va se passer sur Kiev, etc.
On les aide déjà.
En fait, c'est comme si... Il n'y a pas le choix, en réalité.
Mais de toute manière, c'est impossible de faire marche arrière. Mais attendez. Moi, je veux bien qu'on fasse volte-face maintenant. À partir du moment où on s'est impliqué, on s'est engagé en leur livrant des armes, tout était une provocation pour M. Poutine. Parce que là, il se bat contre l'Occident, contre les Américains et donc contre l'OTAN. Vous croyez sincèrement qu'on n'est déjà pas dans sa tête, dans la Troisième Guerre mondiale? Pour lui, à n'importe quel moment, il peut décider d'appuyer sur le bouton. Et nous vivons, par extension de cette guerre, la Troisième Guerre mondiale. Attendez, pardonnez-moi juste... Je finis, je vous laisse évidemment la parole après, mais la flambée de l'inflation qui est en grande partie liée à cette guerre en Ukraine, on la vit par conséquence. Donc qu'est-ce qu'on fait maintenant? On arrête tout, on ne livre plus d'armes et on dit c'est fini, on vous laisse vous entretuer?
La réponse et la conclusion.
Non. La question, ce n'est pas d'arrêter le soutien à l'Ukraine. Ce soutien, il est massif. Encore une fois, les Américains ont mis 100 milliards, les Européens 50 milliards. Tous les mois, nous donnons 5 milliards d'euros à l'Ukraine pour survivre économiquement. Les armes, elles ont été livrées. La question n'est pas d'arrêter les armes. La question, c'est de savoir quelle est la stratégie et quel est le but de guerre. Ça, c'est des choses qui doivent se faire en concertation avec les Ukrainiens et pas nécessairement...
Poutine.
Maintenant, la décision a été prise. La décision a été prise de préparer cette offensive. Souhaitons que ceux qui l'ont prise, à l'abri d'ailleurs du moindre débat dans les peuples concernés, et c'est ça que je regrette, et raison, et que ça se passe bien, que les Ukrainiens gagnent la guerre, qu'on libère tout, y compris la Crimée, et que les Russes se laissent faire.
Non.
Maintenant, s'ils ne se laissent pas faire, on en reparlera dans quelques temps, et on sera en train de livrer des avions, donc on aura franchi un degré supplémentaire dans l'escalade, et on dira, mais ça suffit pas, il faut continuer,
tournant.
Etc. L'idée
on arrive à la fin,
il serait peut-être le temps de trouver une solution négociée, n'est pas complètement absurde, croyez-moi.
Non, mais puis parler de paix dans une guerre, ça paraît quand même naturel, mais vous n'êtes pas très éloigné dans vos positions en tous les cas. Merci Général Clermont, merci Pierre Lelouch,
merci
et j'invite nos téléspectateurs à lire cette tribune publiée dans Le Monde. Pierre Melun, je vous remercie. Paul Melun. Je change les prénoms aujourd'hui.
Vous avez Pierre Gentil tout à l'heure.
Mais Jérôme Jiménez.
Jacques Jiménez.
Merci à vous et à très bientôt. Bon après-midi sur CNews.
Merci.